Salut les Wonderpot et bienvenue dans The DC Alternative, le podcast où on pense que Chris Pine c'est le meilleur Chris. On est d'accord?
On est d'accord.
Oui, pourquoi pas humainement, allez.
Allez, on va dire ça. Je suis Sofiane, avec moi cette semaine notre papa Schulz à nous, Maxime.
Oh, bien vu, bien vu.
Et Wonder Vesper, bien sûr.
Ah bah oui, bah bonjour.
Nanana, Wonder Vesper.
Merci pour cet accueil. Merci pour l'invitation encore.
J'ai appris les paroles du générique de
Wonder Vesper. Oui, bah ça se voit, ouais.
Donc cette semaine, on va vous parler du film de 2017 réalisé par Patty Jenkins, Wonder Woman. Alors, quelle est votre relation avec Wonder Woman avant la sortie de ce film? Comment vous avez découvert Wonder Woman?
Tout le monde se tourne vers moi. Je fais l'audio description en même temps. Comme beaucoup de monde, hein, je pense qu'on est tous beaucoup à connaître Wonder Woman avant même d'avoir lu ne serait-ce qu'un comics ayant un rapport avec elle ou avoir vu un épisode de la série télé face à un personnage qui est tellement populaire, comme Batman, comme Superman, hein, elle est tellement au-delà de tout ça que tout le monde connaît l'icône avant de voir la base, on va dire. Donc, évidemment, petite, j'aimais beaucoup Wonder Woman pour des raisons évidentes. On n'a pas beaucoup de figures féminines aussi cool qu'elle, pour le coup. Donc, évidemment, tout de suite, gros coup de cœur. Elle a beaucoup de valeurs très, très positives et vraiment, vraiment sympas. Et puis, c'est une Amazon, c'est une guerrière, elle vient d'une île avec que des nanas, donc, qui s'appelle l'île du paradis, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Et après, évidemment, en grandissant, je me suis mise, j'ai un peu regardé la série télé, j'ai pas tout vu, mais j'ai un peu regardé la série télé, et puis, lu les comics, j'ai essayé de rentrer par la petite porte, pour voir ce qu'il en était.
Moi, j'avoue que c'est un des personnages auxquels je me suis, par lequel je suis rentré dans les comics, en fait, parce que petit, j'étais passionné d'histoire, et en fait, le côté mythologie, tout ça, c'est une bonne porte d'entrée, je trouve, pour découvrir ce personnage. Ça marche aussi avec Thor, chez Marvel, par exemple, mais moi, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour lui, et j'étais content qu'il y ait enfin une adaptation, quoi, parce qu'on l'attendait un peu. Après 2005, Elektra, c'était le dernier, je crois, hein, pour avoir une vraie adaptation.
Il y a eu Supergirl.
Supergirl, Catwoman
et Elektra, ouais, je crois que c'est les trois seuls. Hein. Ouais,
si je me trompe. En tout cas, cette ampleur, quoi. Ouais.
Alors que c'est sûrement le personnage féminin le plus iconique et le plus populaire dans le monde, quoi, en termes de super-héros.
Oui, et puis même au-delà de super-héros, quoi, en tant qu'icône tout court, ouais. C'était difficile de passer à côté. Donc oui, c'est assez triste de dire qu'il a fallu attendre toutes ces années avant d'avoir un film, mais spoiler alert, ça valait le coup.
Moi, j'ai découvert Wonder Woman, je pense. Il y a bien sûr Linda Carter qu'on a tous vu forcément un jour ou l'autre. C'est un peu comme l'incroyable Hulk qui se transforme. Ouais. C'est un truc qu'on a tous plus ou moins vu. Je sais pas, peut-être pas les plus jeunes d'entre nous maintenant qui regardent moins la télé que nous, mais nous, on a au moins vu l'image, quoi. Et bien sûr Justice League, le dessin animé Justice League, qui était une
c'était une tuerie
voilà, à tous les niveaux, et elle était super en plus dedans. Ils avaient fait cette sorte de relation de respect et un peu d'amour avec Batman que j'aimais particulièrement. C'était plus intéressant que quand elle est on veut qu'elle soit avec Superman parce que les deux ils sont super forts, donc forcément
il faut qu'ils soient
ensemble. Je préfère plus avec Batman où elle a le respect de juste c'est un homme qui se bat et elle respecte ça, le côté guerrier de Batman. Et en plus, ouais, ça a permis de découvrir tous les pouvoirs, tous ces trucs-là, le lasso.
Le jet invisible.
Le jet invisible, exactement. Et ouais, c'était super la version de Justice League. Et c'est hallucinant qu'il ait fallu tout ce temps quand même pour
oui, de toute façon, tous les dessins animés de Bruce Timm de cette époque, difficile de toper ça quand on a notre âge, on va dire.
Ouais. Donc elle a été créée en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. À l'origine, elle se battait contre des nazis, bien sûr. Puis ça devient une sorte d'adaptation moderne de la mythologie grecque que l'on connaît aujourd'hui. Je me demande même si Thor n'était pas une sorte de réponse à Wonder Woman.
Je sais pas de quelle année. Je connais pas assez l'histoire de Thor pour.
C'est plus tard.
C'est
plus tard. C'est bien plus tard. Ouais.
Mais après, est-ce que c'était volontaire ou pas Je saurais dire.
Elle débarque sur les petits écrans pour trois saisons, de 1975 à 79, donc incarnée par Linda Carter. Est-ce que vous avez déjà vu des épisodes de la série?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'était cool. Évidemment, maintenant, c'est un peu vieilli, mais ça a toujours beaucoup de charme, je trouve. Et Linda Carter, elle, pour le coup, ne vieillit pas. On va dire que son incarnation du personnage est toujours aussi agréable à voir en soi.
Et surtout, je trouve que pour l'époque, ça va encore. Ça montre une image très positive d'une femme qui se bat et qui, voilà, bon, il y a un truc marrant, c'est qu'au début, elle sort avec Steve Trevor. Et ensuite, c'est le même acteur qui joue Steve Trevor Jr. et elle sort aussi avec lui. Et ça m'a fait penser à Captain America qui sort avec la nièce de Peggy Carter.
Eh oui, toujours.
Et ouais, franchement, bon, je vous la conseille pas non plus de nos jours parce que ça a pris un sacré coup dur, on va pas se mentir. Mais il y a quand même l'image mémorable de elle qui se transforme en tournant sur elle-même. Voilà,
c'est intéressant d'aller découvrir au moins un ou deux épisodes pour voir à quoi ça ressemblait à l'époque, quoi.
Je crois qu'ils sont sur YouTube, vous pouvez en trouver sur YouTube.
Ouais, je crois qu'il y en a,
En tout cas, il y a des compilations, ça c'est sûr. Au moins tous les moments où elle est enchaînée et quelque chose comme ça, tu vois.
Forcément. En 1996, donc de 79 à 96, il n'y a pas eu grand-chose pour Wonder Woman au niveau du cinéma. La Warner confie le projet à Ivan Reitman, avec Joel Silver qui aurait produit. Et le premier choix, c'était Sandra Bullock.
Bah, un choix de 96. Ouais, voilà. Là, pour le coup, 90, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, mais comme Joel Silver, comme tout le reste... C'est vrai que ça paraît tellement loin maintenant.
On le voit plus, Joel Silver, c'est vrai.
Bah
depuis
oui.
Depuis Matrix.
Qu'est-ce qui devient?
Ouais. En 2001, on parlait de Maria Carey, ou encore Catherine Zeta-Jones, mais surtout une qui va te faire plaisir, Angelina Jolie.
Ouais, évidemment.
Bien sûr, c'était le choix numéro un de tous les fans, hein, Angelina Jolie quand même. Mais il y avait aussi Lucy Lawless qui jouait Xena, qui apparemment aurait peut-être même auditionné pour le rôle.
Bah Lucy Lawless, elle est incroyable. Enfin vraiment, en fait, de toute façon, à partir du moment, enfin, toutes les fans de Xena sont fans de Wonder Woman et vice versa. Je pense ça.
Les mêmes
cordes vibrent quand tu regardes un épisode de l'un ou de l'autre.
En 2005, la Warner engage Joss Whedon, dont on parlera pas mal dans le prochain épisode sur Justice League. Donc au scénario et à la réalisation, remettons les choses dans le contexte. Joss Whedon a fait Buffy, Angel et Firefly. Donc il est en forme, c'est peut-être la forme de sa vie.
Ouais,
il est au sommet de son art à ce moment-là.
Mais en même temps, il a pas encore le cachet du mec qui a fait Avengers. Mm-hmm. Donc il peut pas encore se permettre de rentrer en guerre avec la Warner ou ce genre de choses. Et donc ça nous donne un scénario qui est disponible sur internet si vous voulez vous faire du mal.
Comme Sofiane.
C'est la first draft donc qui est disponible sur internet. Alors le personnage principal du film n'est pas Wonder Woman, c'est Steve Trevor qui a lui-même donc une sorte de narration pendant tout le film. Ça se passe de nos jours. Steve se crache donc comme dans la version actuelle, il se crache devant l'île. Et Diana et sa mère se battent au sujet de Steve dès qu'il arrive. Donc on passe direct le Bechdel test, on est bien dedans. apparemment Diana elle perd ses pouvoirs à un moment dans le film. Et donc Steve il passe son temps à la défendre pendant une bonne moitié du film. En gros on enlève tous les pouvoirs de Wonder Woman et c'est un homme qui la défend. mais cela dit. Elle a le jet invisible.
Ah, tu vois?
Tu vois, elle a quand même jet invisible. Et à la fin, elle se bat contre une sorte de Metal Gear avec des ailes. j'ai pas d'autres mots pour le décrire. et dans le rôle, il avait pensé à Cobie Smulders de How I Met Your Mother.
Et, pourquoi pas? Et de Avengers après, quoi.
Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit script de Joss Whedon qu'on a failli se taper?
Ça a l'air horrible, hein.
Affreux, ouais, ça a l'air horrible, effectivement.
Il a pas tout compris au personnage, je crois.
Mais c'est étonnant parce qu'il était connu à cette époque-là pour écrire justement des personnages féminins très forts.
Bah ouais. Puis bon, après, avec le recul, on a appris que humainement, quelqu'un qui se prétendait féministe, c'était pas non plus
le top du top.
Humainement, voilà, la meilleure personne. Mais à l'époque, on pensait tous, qu'il aurait été vraiment le meilleur choix pour mettre en avant au moins une meuf aussi cool que Wonder Woman, c'est clair.
Moi, je me rappelle la hype à l'époque quand Joss Whedon a été annoncé pour faire Wonder Woman, c'était genre parce que c'était avant qu'on se dise ce serait bien que ce soit une femme qui écrive le projet.
Oui, enfin, bien sûr.
C'était avant qu'on se passe à cette époque-là et on disait non, ce serait bien si un homme qui connaît les femmes puisse écrire le projet. Et c'est vrai que c'était la grosse hype et même moi j'étais super chaud pour voir le film, quoi. Je veux dire.
Bah grave. Enfin, à partir du moment où t'es fan de Buffy et puis de toute façon tous les personnages, pour parler vite fait de Firefly et Serenity, enfin les personnages, tous les personnages sont cool, le cast est vraiment bien, donc ils savaient faire, quoi.
Ensuite, il y a un petit projet dont on parlera aussi plus. Dans l'épisode prochain, c'est Justice League Mortal de George Miller, qui là aussi c'est un gros morceau. Wonder Woman aurait été incarnée par Megan Gale, un mannequin australien. Elle avait signé pour le rôle et on l'a vu dans Fury Road dernièrement.
Ah oui, ouais, donc l'une des femmes.
Exactement. Non, c'est pas l'une des femmes, c'est l'une des femmes guerrières qui vit dans les swamps là.
D'accord.
Ouais. Et le projet a été abandonné en 2008. J'ai Je vais pas m'attarder longtemps dessus parce que la semaine prochaine, je vais vraiment sortir tout le dossier comme ça.
parce que
le Justice League de Miller, c'est quelque chose, quoi. Oh, on continue avec Paul Feig cette fois. Plus connu dernièrement pour le Ghostbusters féminin. C'est un peu ça le dernier truc qu'il a fait, non?
Il a sorti l'année dernière Last Christmas, le film qui reprend les chansons de George Michael avec Emilia Clarke.
Hein?
Ouais.
Camoulox,
je ne l'ai pas vu.
Une rom-com avec Emilia Clarke et voilà, qui est fan de George Michael avec des musiques de George Michael.
Ah, ok.
Malheureusement, c'est pas très bien alors que je suis assez fan de la filmo de Paul Feig d'habitude. Donc,
ouais, il a fait quoi d'autre? Il a fait.
Il a fait Bridesmaid et il a fait Spy. Donc, Spy. Qui sont deux films que j'adore. Donc vraiment, et j'adore Ghostbusters aussi, hein. C'est dit, je. Voilà. Je confesse, je l'ai dit plein de fois. Donc, non, parce que.
Moi aussi, j'aime
bien
Ghostbusters.
Tout le monde était tellement vénère contre Ghostbusters de 2016.
Ah, celui de 2016.
Oui, bien sûr.
Non, ouais. Un jour, on fera, vu qu'on va faire un podcast sur les sagas, eh ben, on va faire tous les Ghostbusters et tu pourras venir défendre.
Ah, grave, avec plaisir. Avec plaisir.
Donc lui, il voulait faire un film d'action-comédie, mais Warner l'envoie balader. Non, c'est bon, ça nous intéresse pas. Et c'est là qu'il confie le projet à Michel MacLaren, connu pour Breaking Bad et Game of Thrones. Surtout sur son boulot sur Breaking Bad qui était hallucinant, vraiment. Elle amenait un vrai truc à la série. À chaque fois que c'était un épisode réalisé par elle, tu te disais, il va se passer quelque chose.
Ouais, pour le coup, c'est une vraie réalisatrice de série, elle.
Ouais, voilà. Ça s'est pas très bien passé avec Michel MacLaren, hélas. Parce que elle, son idée, c'était que Wonder Woman ait un tigre comme sidekick. Voilà.
Pourquoi pas?
Et je crois que c'est un tigre qui parle.
Enfin, il manquait que ça.
J'allais dire presque comme Jasmine, mais pas trop, en fait.
Donc elle quitte le projet à cause de creative differences, comme ils disent. Et Patty Jenkins est engagée. Est-ce que vous la connaissez un peu d'avant, Patty Jenkins?
Moi j'avais vu Monster.
Elle a fait que ça,
ouais,
c'est ça.
Le seul film avant Wonder Woman.
Et on pouvait pas vraiment juger de se dire est-ce qu'elle peut faire un blockbuster en voyant Monster.
Mais si elle était censée, elle était à la base sur Thor 2, il me semble.
Ah, c'est vrai.
Au début 2010, elle a été remerciée aussi pour différents créatifs et elle avait été remplacée par Kenneth Branagh. Non, par
Alan Taylor.
Ouais. Alan Taylor.
Ouais. C'était super, Thor 2. Il y avait Darcy dedans.
Donc en soi, c'était pas illogique de l'avoir passé de Thor à Wonder Woman en termes d'univers. Mm. Ça avait l'air de coller pour elle.
Ouais, donc Charlize Theron, elle aurait pu jouer Wonder Woman.
Ah, grave. Mm. Ah oui, bah après, des nanas super cool pour faire Wonder Woman, il y en a pas mal, hein.
Ouais. Bah justement, on va en parler de quelques-unes. Il y avait Olga Kurylenko qui était sur le coup. Donc
moi je dis oui, Olga Kurylenko aussi.
Surtout connue pour
Quantum of Solace.
Et les pubs cartes noires.
Oui, ça. Ouais, et
était très jolie dans les pubs cartes
noires. Et pour avoir fait une prostituée dans Le Transporteur aussi. Le 3, je crois.
Oh, le 3 en plus.
Ouais.
Je vois que tu t'en souviens bien.
C'est parce que j'aime beaucoup Olga Kurylenko, j'ai pas une grande.
Elle est très jolie.
En rôle cliché. Ouais, non, elle est. Puis elle s'est jouée aussi, hein.
C'est clair.
Et l'autre choix, c'était Elodie Young, qui est Electra dans les séries Netflix.
Qui joue dans G.I. Joe 2. J'avais cherché son nom très longtemps la dernière fois
aussi.
Ils ont des bonnes
filmos.
Mais en tout cas, leur point commun, c'est que c'est que des brunes très, très belles, élancées, qui ont réussi quand même à faire des films d'action et qui ont prouvé que elles étaient capables, quoi.
Et qui ont sûrement commencé leur carrière comme étant mannequin aussi.
Oui, je pense. Enfin, ouais. Là, pour le coup, je pourrais pas confirmer, mais ça m'étonnerait pas, ouais.
Donc, Gal Gadot est annoncé. Vous vous rappelez des réactions, bien sûr.
Ouais.
C'est surtout la sortie du film que ça avait été virulent.
Ah non, moi, je me rappelle dès l'annonce du casting, parce qu'on se souvient d'elle dans...
Pour BVS. Enfin, c'était l'annonce du casting pour BVS.
On se souvient tous d'elle, c'est dans Fast and Furious.
Ouais.
Avant, est-ce qu'elle a eu d'autres rôles?
Des petites apparitions, j'avais regardé un peu sa filmo, mais c'était vraiment des petites apparitions dans des films plus ou moins mineurs.
Et c'est vrai que dans Fast and Furious, elle fait vraiment...
On avait parlé du coup dans le podcast sur BVS, mais effectivement dans Fast and Furious, enfin moi je la trouve très bien, hein, elle est cool, elle est sur sa moto, elle est crédible, mais bon effectivement encore une fois, je suis plus fan, enfin ma vision de Wonder Woman est plus une femme un peu plus musclée et pour moi plus crédible quand elle tape des gens qu'une mannequin qui fait du 34, mais pour le coup je trouve que Gal Gadot était très bien castée et que ça. Enfin, elle est parfaitement crédible dans le rôle, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a pas...
C'est un des trucs qu'on veut pas lui reprocher,
Vraiment...
Elle colle au perso.
Le budget de 150 millions pour un box-office de 820.
C'est quand même pas mal.
C'est un joli,
encore une fois, un bon chiffre pour DC. Ils ont enchaîné, même Suicide Squad a bien marché.
Ouais, donc, oui.
Tu vois. Et c'est le prochain film qui va un petit peu poincer tout ça.
Qui
va un peu arrêter d'un coup.
Mais je me rappelle très bien, Wonder Woman, j'étais allée voir en avant-première au Grand Rex. Et vraiment, le moment où je me suis assise dans la salle et voilà, les lumières se sont éteintes et je me suis dit, faites qu'il ne soit pas mauvais. Et vraiment, je misais tous mes espoirs, tout était là-dessus, quoi. J'avais vraiment peur d'être déçu, quoi.
Mais il y avait une vraie attente, je m'en souviens, comparé à Captain Marvel qui arrivait un peu après et où c'était un peu différent parce que c'était vachement plus marketé là-dessus. Je trouvais que Wonder Woman, il y avait plus un élan naturel, genre les petites filles qui mettaient les cosplays, qui allaient voir le film. Enfin, il y avait tout un truc assez naturel et qui faisait plaisir autour de ce film.
Oui, puis parce que le personnage était plus connu aussi, ouais. Qu'elle avait déjà été introduite dans BVS et tout. Et puis forcément, mais comme en plus le succès de Wonder Woman pavait la voie pour Captain Marvel. Donc je pense que ça a dû aider, quoi.
Ouais, puis je crois que les petites filles aiment bien Gal Gadot aussi.
Ouais,
elle passe bien.
Qu'est-ce qu'elle
à chaque
est
fois
belle,
qu'on la voit avec mais... Mais oui, c'est on peut le dire maintenant.
Oui, non mais voilà, c'est dit.
C'est une des plus belles femmes du monde, voilà quoi. Elle rentre dans une pièce, je pense que tout le monde de tous les âges, de tous les sexes, tout le monde tombe quoi, tu vois.
Ça pose des problèmes à Steve d'ailleurs dans le film.
Et le pire c'est qu'elle a un accent pour ajouter un peu encore en plus,
oui, pour
tu
se
vois.
Détacher du voilà, se détacher du lot mais
encore plus.
C'est incroyable vraiment dans le film. Je trouve que ça ressort beaucoup.
Ouais.
C'est déjà la gentillesse de Wonder Woman. Et je sais pas, elle a un truc dans ses yeux, dans son sourire, où vraiment elle paraît. Enfin voilà, c'est l'acting et sa beauté qui aident, hein, mais elle subjugue tout le monde. Elle paraît sincère, vraiment sincèrement gentille.
Oui.
Et...
Une simplicité, ouais.
Mais c'est ça, elle fait vraiment net, enfin nature. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est tous les artifices qui aident. Hein. Je ne connais pas Gal Gadot personnellement. On a déjà assez parlé d'elle pour le podcast de BVS. Mais vraiment, elle est. Enfin, tu. T'y crois quand on te dit que c'est une icône qui représente la bonté et la beauté, en fait. C'est incroyable.
Je sais pas si c'est aussi parce que pour une fois, c'est pas filmé avec le male gaze habituel.
Ça joue, hein.
Ah, bah, ça joue
et
beaucoup.
Et que là, vraiment, ce soit vraiment filmé comme...
C'est inégal à tous les autres personnages du film, quoi.
Voilà, voilà ce qu'une déesse devrait être, mais vraiment du point de vue féminin, pas du point de vue masculin.
Ah
et,
bah,
ça change tout, quoi.
De toute façon, je trouve que cette aura qu'elle a, elle l'a vraiment dans Wonder Woman et elle l'a ni dans BVS ni dans Justice League.
C'est vrai,
donc,
ouais,
ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Les scènes où elle découvre dans le film, tout ce qu'elle découvre à chaque fois, elle le vend à une sorte de naïveté mais pas bête.
Ouais.
Plus c'est une vraiment, candeur. Hein,
voilà, une candeur, exactement. On passe au film ?
Oui !
Let's go !
Diana travaille au Louvre, habillée comme un mannequin, parce que je sais pas combien on gagne au Louvre.
Ouais, mais
les tenues qu'elle a dans le film.
Tu te dis qu'elle
quoi.
Est vieille, elle a eu le temps d'économiser au pire. C'est avant, elle a un peu galéré, tu vois.
On en parlait dans Batman v Superman, des tenues de Wonder
ah,
Woman,
non,
mais là,
mais
ça continue.
Tout.
Là,
ah,
c'est
non, mais
encore,
tout. Et donc, du coup, son bureau est au milieu des œuvres d'art entreposées du Louvre. Voilà.
Elle bosse aux archives du
Louvre. Je ne sais pas trop pourquoi, mais elle est vraiment entourée, je sais pas, d'être dans le coffre-fort, elle travaille au milieu de tout ça.
Et est-ce que ça fait 100 ans qu'elle est là et que personne n'a remarqué? Donc elle retrouve sa photo, là, le fil conducteur du film, un petit peu, c'est la photo que Bruce lui a envoyée. D'ailleurs, il y a écrit bruce@wayne.com ou un truc comme ça. bruce@batman.com. Donc on a un flashback avec la jeune Diana Temyskira. Elle veut se battre avec les autres, mais on veut pas qu'elle se batte.
CGI un peu cracra.
Il y en a pas mal dans le film,
voilà,
hein,
c'est...
CGI un peu cracra.
Ouais. C'est un peu, ouais. C'est
surtout
un peu
en arrière-plan, il y a souvent des trucs un peu...
Et même quand on revoit Lille dans Justice League, il y a un peu les mêmes problèmes.
Ouais,
aussi.
Non, mais c'est, mais c'est même inhérent au DCU, c'est vraiment, même Aquaman, hein, on aura le temps de leur dire, mais à chaque fois, la CGI est très cracra, alors que j'ai regardé, du coup, j'ai regardé un peu les bonus, vu que Zoltan n'est pas là, sans le savoir, j'ai pris son rôle, mais, comment dire, ça a été tourné en Italie, l'île est très belle, tout est très beau, et, bah, je sais pas, ouais, c'est, je pense, les plans larges, où il rajoute vraiment à Bal le côté un peu magique et
il
paradisiaque.
Il y a un côté un peu fake au bout d'un moment qui ressort.
Et ça, ouais, ça, c'est pas très beau, quoi.
C'est pas au niveau non plus de la cascade dans Black Panther qui est quand même.
Ah oui, ouais.
Là,
ouais,
c'est
aussi,
vraiment.
Ouais.
Mais même Black Panther en général au niveau des effets spéciaux.
Un peu les mêmes soucis,
ouais.
C'est pas top, quoi. Donc elle a été créée dans l'argile, hein, tout simplement, comme tout le monde, quoi. Et Zeus lui a donné la vie. J'aime bien qu'il y ait un truc quand même. J'ai déjà dû en parler dans les épisodes d'avant, mais Zeus existe. Donc les dieux grecs existent dans le monde de DC.
Ils sont canons dans l'univers de DC.
Et c'est pas des aliens ou quoi comme dans Thor. C'est vraiment les dieux qui existent, qui ont donné vie aux humains et tout. Et tout le monde s'en fout.
Mais ce qui est cool en plus, c'est que vraiment, c'est du coup la véritable origine de Diana dans les comics, ouais. C'est ça en fait. C'est vraiment sa première histoire. C'est elle a été créée dans l'argile et donc du coup Zeus a donné vie à l'argile et ça a fait une enfant. D'où le fait que normalement, sinon toutes les autres guerrières ne sont pas des enfants en fait. C'est la seule enfant de l'île en fait. Mmh.
Elle est bien la gamine qu'ils ont trouvée aussi.
Les deux sont bien.
Ouais. Très bien trouvée. Bon, je sais pas si elles grandiront pour être Gal Gadot, mais.
Mais j'ai vu. Tu leur souhaites.
Comment tu fais pour caster Gal Gadot enfant, quoi. Et donc, Arès a tué tous les dieux. Et donc, Zeus a créé Themyscira pour cacher les Amazones. Il y a une épée pour tuer les dieux. Et voilà. En gros, il nous balance
God
un petit
Killer,
peu.
God Killer.
Voilà, il nous balance. Très bon nom de God Killer. C'est très comic book. Ça fait un peu album de métal.
Du coup, sa mère veut pas qu'elle s'entraîne, et donc du coup, c'est là tout le truc, c'est qu'après, elle finit par céder et elle laisse donc sa tante incarnée par Robin Wright l'entraîner. Et je les trouve déjà, enfin, super badass. Enfin, c'est incroyable. Elles ont à l'époque
50.
Plus, ouais, je sais pas, 50
ouais,
quasi, 50, presque
50,
en tout
ouais.
cas. Et elles sont incroyables, vraiment. Enfin, déjà le travail sur les costumes est ouf.
Ouais.
Et les costumes sont magnifiques et je trouve vraiment qu'elles ont un côté c'est ça, enfin vraiment côté royauté Amazon, mais avec leur avec les tiares, enfin le travail fait là-dessus est super enfin super beau. Enfin en fait, j'adore Themyscira, je trouve vraiment que donc au-delà du fait que l'île est très cracra, voilà. Mais c'est enfin vraiment le rendu, moi j'ai envie d'y vivre, j'ai envie de m'entraîner aussi et de m'entraîner à l'épée et de courir près de la plage, quoi. Mais c'est ouf, elles font du cheval, elles font leur vie. Et surtout, toutes les actrices se sont entraînées pour reproduire l'accent de Gal Gadot.
Ouais, ça, c'est cool, ça. Parce que c'est vrai que c'est logique qu'elles aient un accent et tout. Enfin, ça marche bien, ça fonctionne très bien.
Ça donne un côté
bien,
un peu étrange. Ouais. Enfin, ouais, un accent
mais là,
étranger
du coup,
un peu indescriptible.
Ben, c'est ça. Et en fait, c'est juste, on va dire, le contrainte extérieure qui se transforme en élément du film, donc.
Est-ce que vous vous souvenez de ce truc qu'il y avait eu à la sortie de Justice League, comme quoi les tenues des Amazones dans Justice League étaient beaucoup plus courtes,
ouais.
beaucoup plus
sexy,
en mode sexy avec le ventre
oui,
nu
bah,
comme
c'est
ça.
Ouais, je me rappelle.
Que voilà, bon bah
là où
c'était pas les mêmes consignes.
Coucou Zachary, on pense à ça.
Bah en fait le truc c'est que j'avais renoté parce que le nom de la costumière donc c'était Lindy Hemming et en fait elle fait beaucoup de costumes de films qu'on connaît. Notamment Tomb Raider, donc d'où le fait que je la connais bien. Enfin, elle a quasiment fait les costumes de tous les films que j'aime bien. Et donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a repris le costume qui a été fait pour Gal Gadot dans BVS. Et en fait, l'intégralité des autres costumes sont inspirés du costume de Wonder Woman. D'où le fait qu'il y en a une qui va avoir une étoile sur sa tiare, l'autre qui va avoir cette partie-là sur son corset. Enfin, c'est vraiment, elle s'est inspirée de ça et elle a tout, elle a tout remis. Et donc on voit la différence entre, certes. Là, elles sont en jupe et tout, mais bon, comme la représentation classique qu'on a des Amazones, mais effectivement, elles n'ont pas le ventre à l'air, elles ont quand même des tenues qui ont l'air un peu pratiques, contrairement à ce qu'on verra
exactement.
Dans Justice League.
Ouais, dans Justice League, c'est vrai qu'elles ont, il y a un côté plus sexy. Et là, c'est là qu'on voit encore le male gaze qui arrive et qui change le truc.
Alors qu'en plus, elles n'avaient même pas besoin, elles sont
non.
déjà en jupette avec
reprenez,
des corsets, quoi.
Oui, elles sont déjà quand même.
Et un autre truc qui fait plaisir sur Themyscira, c'est la diversité aussi sur l'île. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas juste des femmes blanches, comme on peut voir souvent dans certains comics.
C'est comme dans Thor, ils ont fait ça aussi dans Thor. Idris Elba, par exemple. Mm-hmm. Ça aussi, ça avait fait parler à l'époque, je me rappelle. Et c'est vrai qu'ils maintenant, elles sont censées représenter toutes les femmes de la Terre, au final. Donc, c'est un peu logique.
Mais c'est cool que ça y soit, quoi. Ça aurait pu
carrément.
Ne pas y être.
Nicole Kidman devait jouer sa mère à l'origine. Mm-hmm. Et elle n'a pas pu parce qu'elle a fait... Comment s'appelle sa série déjà?
Big Little Lies.
Big Little Lies.
Bon, ça va, c'est pour une bonne raison.
Faudrait que je regarde un de ces quatre. En plus, il y a Laura Dern. Alors... Donc voilà, il y a Steve Trevor qui se crash. Donc dans à peu près toutes les versions de l'histoire, de même tous les scripts qu'il y a eu avant, c'était presque toujours ça l'histoire, qu'il arrive et il se crash. Et Diana le sauve, et ainsi démarre une des rares bonnes histoires d'amour dans un des films de dans un film de super-héros.
Oui, c'est clair.
C'est vrai,
où il y a l'alchimie entre les deux, on comprend pourquoi ils sont attirés l'un par l'autre, ils se complètent bien, et on a envie qu'ils s'embrassent à la fin
du
film.
Ça fait très
quoi.
La petite sirène, hein, quand elle est près de lui sur la plage, <C'est vrai. rire> qu'il est échoué, qu'elle le sort de l'eau. Mais bon. Et bah, du coup, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais effectivement, à la base, Steve Trevor, enfin, normalement, tout ça, c'est, ça a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est
et
vrai.
Ils ont décidé de transposer ça pendant la Première Guerre mondiale.
Parce que
on
Captain America.
Ouais, parce qu'on
était passé juste avant.
Ouais. C'est-à-dire, on veut pas trop miser sur les nazis. Ouais.
Ah non, non, ils se seraient fait plaisir, justement, c'était les nazis. Justement, avec les nazis, tu peux faire ce que tu veux, ouais. Tu peux les insulter, les tuer, ben, n'importe quoi, ça passe. Et donc ils ont été obligés de changer leur plan à cause de Captain America First Avenger où donc c'est dans la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que ça aurait été un peu
ça
le même genre d'histoire ouais voilà quoi. Donc il y a les Allemands qui arrivent, un combat entre arc contre gun. J'aime c'est vrai que les effets spéciaux sont pas top, mais par contre j'aime beaucoup la manière de se battre des Amazones.
Les chorégraphies sont
elles se
franchement...
font des saltos, elles se retournent sur
elles-mêmes.
Ah ouais,
à total, le slow-mo.
La manière dont elles sont à cheval et tout, elles arrivent à faire des trucs de ouf à cheval.
Mais ce qui est super, c'est que c'est des chorégraphies qui font réalistes, mais qui sont impressionnantes, je trouve. Hein,
ouais,
qui ont
ça,
vraiment...
ça fait super-héros, mais bien.
Tu sens que les mouvements sont possibles dans la réalité, en fait, et ça donne un côté vachement puissant aux Amazones, ça marche super bien.
Bon, elles se font rect quand même par des fusils, hein, c'est ça le
normal.
Truc. C'est des femmes qui sont incroyablement entraînées et fortes, mais bon, elles meurent.
Et Wonder Woman, on apprend justement qu'elle, elle régénère. Elle est coupée un moment et après elle est plus coupée. Et donc si elle se fait tirer dessus, logiquement, elle devrait survivre. C'est ça un peu qu'on nous dit.
Bah, en tout cas, on nous dit que la maquilleuse a oublié de remettre la,
c'est
la
bizarre.
Plaie
ah,
au même
tiens,
endroit.
Donc il y a Antiope qui meurt. C'est comme ça qu'on dit en français, Antiope, hein, ouais, Antiope. Ouais. Donc toi, tu l'aimais bien. Hein,
oui, bah ouais, voilà. Rip, bon, c'était sûr. De hein, toute façon, elle était cool, elle était badass. C'était le rôle du mentor, fallait qu'elle meure.
Et puis Robin Wright, quoi.
Bah, c'est ça. Puis Robin Wright lui coûtait très cher, je sais pas.
Donc là, on apprend que Steve est un espion pour les Anglais, mais aussi américain. C'est que, en fait, j'ai pas bien suivi le délire, en fait.
Faut comprendre, c'est ce qu'il dit quand il explique à Diana. Il fait « Moi, je suis gentil, eux, c'est les méchants. »
Voilà, voilà.
Point.
C'est tout ce que t'as besoin de comprendre.
Sauf qu'au final, on apprend que c'est pas vrai, que c'est pas ça. Parce que le grand thème du film, c'est aussi que la guerre, c'est entre les hommes, peu importe l'influence des dieux et quoi que ce soit. Il y a des méchants des deux côtés, il y a du bon des deux côtés. Et c'est vrai que la Première Guerre mondiale, on peut se permettre de faire ça plus qu'avec la Seconde.
Oui.
Où là, bah non, il y a clairement les méchants dans la Seconde.
Il y a vachement plus de manichéisme dans la Deuxième Guerre mondiale.
C'est clair. Ouais. Donc ouais, c'est quoi alors? Il est américain, mais il est espion dans le camp anglais.
J'ai compris qu'il était anglais, moi, mais
il est anglais.
Ouais,
moi,
il est anglais,
d'accord.
Ouais,
en tout cas,
anglais,
il bosse pour le gouvernement britannique, ça c'est sûr.
Parce qu'il y a un moment, il y a le natif américain qui dit que c'est les mecs, c'est les gars de Steve Trevor qui les ont tués.
Je pense qu'il parle plus de l'homme blanc, enfin caucasien.
Non, parce qu'il plante, il pointe bien Steve Trevor, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il est américain ou il est anglais? Bon, on saura jamais. Hein, voilà. On va encore se faire engueuler. Genre.
Non, enfin,
vous ne regardez pas le film, les gars. Il y a Dr. Poison qui est là aussi.
Oui.
J'ai bien aimé ce personnage.
Bah, elle a vraiment
très creepy,
un look Phantom of the Opera. Moi, j'aime beaucoup. Quoi.
Mais
vraiment,
sa prothèse est super... Enfin, elle est esthétique, je trouve. Ça,
ouais.
C'est vraiment
non,
un
mais
truc...
Enfin, c'est stylé, vraiment.
Je pense que le prochain méchant dans James Bond aura un masque dans ce genre-là aussi, apparemment.
Il y a des chances, ouais.
Et ça me fait penser au masque dans Boardwalk Empire. Je sais pas si vous avez vu, il y a un personnage dans Boardwalk Empire.
Ah ouais, j'ai pas vu la série, mais je vois de qui tu parles. Ouais. Ouais.
Donc elle crée des bombes chimiques pour les Allemands qui peuvent faire péter les masques et ce genre de choses. Et
en gros, elle a créé le gaz moutarde plus. Quoi.
Exactement, voilà. Il y a un moment où Steve se vante d'avoir un sexe plus grand que la normale. Est-ce qu'on peut parler de ça?
Alors, cette scène est incroyable, déjà.
Ça aurait pu être très cringe,
parce
mais elle
que...
est bien, je trouve.
Non,
mais
elle est
très drôle, parce que vraiment, donc, du coup, Steve est dans l'espèce de...
Enfin,
dans les... Ouais, les eaux chaudes, les sources chaudes de Themyscira, mais l'eau est un peu magique. Enfin, voilà, parce que c'est une île magique. Et vraiment, il sort de l'eau, et oui, elle lui demande s'il il correspond au... à l'humain moyen, et en fait effectivement il lui répond qu'il est above average. Et je trouve que c'est tourné, enfin déjà à partir du moment où en plus c'est inversé, enfin du coup c'est elle qui le surprend nu, qui est d'habitude, enfin c'est plutôt l'inverse, mais du coup c'est fait de manière genre mignonne. Je sais pas si c'est le meilleur mot, mais c'est.
Elle l'observe, tu sais, comme quelqu'un qui va sculpter un homme nu.
Ouais,
sais.
Non, mais oui.
Elle l'observe pas d'une manière, oh, c'est quoi ça, j'ai jamais vu ça.
Froid,
elle est juste là. Ah oui, donc c'est bien à ça que ça ressemble en vrai, tu vois. Elle est beaucoup plus,
Mais c'est, enfin, je sais pas, c'est de la manière dont ils communiquent, quand ils interagissent tous les deux. Enfin, c'est fait de manière naturelle et marrante. Enfin, je trouve
ouais,
pas
c'est
ça.
C'est à l'image de leur
ça.
Relation, ouais. Qu'il y a un peu de... Enfin, c'est avec une certaine délicatesse et tout passe plutôt bien et naturellement, quoi.
Bah, en fait, je réfléchis, mais, de toutes les histoires d'amour dans les films de super-héros, on t'enlève Lois et Clark, l'habituel, bien sûr. On va dire t'enlèves Tony et Pepper, qui est quand même pas mal aussi.
Et encore, Tony et Pepper, ouais. Faut plusieurs films. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pas au bout d'un film où tu te dis... Voilà.
C'est fragmenté sur
bien,
tellement
quoi.
De films que...
Cap et Peggy, c'est que sur un film, quand même.
Ouais.
Et bah, ça marche aussi
ouais.
bien, je trouve.
Bon,
c'est pareil, voilà. C'est au même niveau, je les mets, les deux. Et je les aime bien, en plus, et bah, regarde. Ils ont fini Endgame là-dessus, donc c'est que c'était quand même important.
Oui,
quoi.
Bah, oui.
Je pensais
oui.
que tu serais plus Thor et Jane Foster, tu
sais. Ouais.
Oh là là, mais au secours.
Elle revient bientôt, alors.
Et oui.
Donc, Diana, elle se barre avec le lasso, le bouclier, l'épée, le tiara, elle se barre avec tout.
Elle se fait du stuff.
Elle est super vénère, elle dit, je vais arrêter la guerre, je vais tuer Hades, tout ça.
Et elle vole le costume. On sait pas. D'ailleurs, on sait
oui.
pas, le costume est là, il est au milieu de...
C'est un peu flou.
Il est au milieu de nulle part et... On sait pas pourquoi, parce qu'il y a rien d'autre qui est, enfin, ils ont que des costumes dorés et tout, ouais. Là, un costume rouge et bleu qui...
Américain.
Qui est là. Ouais. Et elle le prend, puis elle met sa cape, et puis elle dit, allez, prends ton manteau, on s'en va, Steve.
Donc, on va parler du sujet, qui fâche pas mal de gens. Pourquoi est-ce qu'elle s'est cachée pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous avez 2 heures.
Déjà, comme ça.
Non, mais c'est pas simple en vrai de comprendre.
Est-ce que c'est parce que justement elle a vu que c'était les hommes qui se battaient entre eux et qu'elle pouvait rien faire contre ça? Elle a déjà tué le dieu de la guerre, mais la guerre continue, elle peut rien faire contre ça. Est-ce qu'elle abandonne à ce point en fait?
Ouais, moi c'est un peu comme ça que je le vois après.
C'est une forme d'abandon avec en plus la mort de Steve qui fait peut-être qu'elle se détache un peu plus encore des humains. Enfin.
Ouais,
c'est particulier.
Décide d'aller vivre
mais
au Louvre.
Mais qu'elle se sent puissante, elle va vivre avec les pierres.
Il y a quand même une scène cool où on la voit sur les toits de Paris et j'ai trouvé ça assez cool.
Ouais.
À la fin, ouais.
Ouais, à la toute fin. Mmh. Ouais,
enfin, le saut final, il est
sur,
un peu...
Sur les sauts de Paris, les toits de Paris. Et c'est rare dans les films de super-héros qu'on voit les toits de Paris. Galvan, bah, tu vois, j'ai noté, Galvan, franchement bien, l'innocence de Diana.
Bah, c'est ça, c'est qu'ils ont... En fait, du coup, Patty Jenkins disait qu'en fait, elle voulait vraiment qu'on voit le film à travers les yeux de Diana, en fait. Donc, et c'est vraiment ça, c'est que du coup, les moments un peu de candeur et tout qui arrivent. En fait, j'avais peur que ça fasse beaucoup les scènes qu'on a déjà vues dans Thor, en fait, parce que c'est ça, c'est beaucoup.
Ouais.
J'avais peur que ce soit la redite de le contexte d'une guerre mondiale avec Captain America mixé avec Thor qui arrive et qui connaît rien au monde moderne. Bon, du coup, on va dire un monde plus moderne, parce que
ça
là,
marche
c'est pas
avec
le monde
Cap
moderne.
Ça marche avec Cap aussi, ça.
Oui, c'est vrai.
Ouais, aussi, tu vois. Et j'avais peur que ça fasse trop redite et je trouve qu'elle est sur un entre-deux qui est pas toujours très logique. Parce que des fois, tu comprends qu'en fait, qu'elle sait énormément de choses. Justement, il y a une histoire où elle te dit qu'elle a lu, plein d'encyclopédies, sur les hommes et qu'elle sait comment ils se reproduisent en gros et pour faire une petite vanne en plus, mais il y a des moments où elle a des réactions, où elle entend, je sais plus, je crois que c'était par rapport à un bébé, enfin
ouais, elle s'émerveille devant un enfant,
voilà, donc il y a des trucs un peu bizarres où il y a des choses qu'elle est censée savoir qu'elle sait pas et où d'autres elle s'émerveille un peu pour rien, mais
en fait c'est
mais
plus
bon.
Le fait de le voir en vrai qui la fascine plutôt que,
ouais.
que la connaissance, en fait elle sait que c'est un bébé, mais c'est juste de le voir vraiment parce qu'il y a pas d'enfant sur Témiscara.
Mais ouais, mais par exemple elle demande c'est quoi le mariage,
oui,
alors
oui.
que tu vois elle est censée savoir à peu près ce que c'est, enfin ce genre de
ça a été inventé quand le mariage?
Oh là. Alors avant tout ça.
Ouais, voilà. Enfin, les Grecs ils se mariaient pas, non? Ils avaient
ouais,
pas
des alliances trucs. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Si c'était aussi formel que le mariage, mais.
Mais moi aussi, quand je vois des bébés dans la rue, je fais ah bébé.
Un bébé. Non, mais par exemple, pourquoi il y a des gens qui passent dans la rue et elle dit mais pourquoi ils se tiennent la main?
Ouais.
Et ce genre de truc. Mais bon, mais franchement ça passe,
ça marche,
et
ça marche,
la scène où du coup effectivement il l'emmène changer de vêtements parce qu'elle passe pas inaperçue avec sa tunique et tout, je la trouve bien faite. Donc enfin l'humour là-dessus est bien
oui.
Bien
ouais, comme
bien,
ils disent fish out of the water.
Ouais, ouais, c'est exactement
ça marche
trop plein.
Très bien, ouais. Et oui, l'alchimie avec Chris Pine est très bien aussi. Tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Moi le film là je suis dedans.
Ouais.
Non mais c'est vrai.
Non, mais moi aussi,
Sophia aussi enthousiaste sur un film d'ici, c'est beau.
J'étais chaud, j'étais là, je fais ça, la première fois que je l'avais vu, j'avais été un peu mais. Et là en le revoyant, je fais ah, je suis dedans là, je suis bien dedans là. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être Gal Gadot qui passait pas, alors que là cette fois c'est vraiment passé comme une lettre à la poste, il y avait pas de problème.
Ah bah moi on aura le temps d'en reparler après, mais moi j'ai un problème avec la fin, mais
comme beaucoup, je pense, quoi. C'est pour ça que je dis que jusque là tout va bien.
Mais sinon en retirant la fin, enfin moi tout le reste j'ai pas grand-chose à reprocher, enfin c'est du détail.
Donc parlons du méchant pan-nazi allemand,
Stryker.
Stryker, en effet, maintenant que tu le dis, c'est ça que je me disais que j'avais vu.
X-Men
dans Matrix, c'est vrai que je l'avais vu.
Trop d'épisodes sur les X-Men.
Lui, son truc, c'est qu'il se drogue pour être plus fort. Et donc, on nous fait croire pendant tout le film que c'est lui le dieu de la guerre, alors qu'en fait, non, c'est pas lui, c'est le gentil.
C'est Lupin.
C'est Lupin, j'avais dit.
Sir Patrick.
C'est ce creepy de Lupin.
Avec sa moustache.
Est-ce que vous l'avez vu dans Fargo?
Non, j'ai pas vu la série Fargo.
Ah mon dieu, il a des dents dégueulasses. Ah ouais. Et c'est genre une sorte de tueur à gages. Et il fait flipper, mais à un point, c'était là genre. Plutôt que de me parler, tu veux pas me tuer tout de suite parce que tu me fais vraiment trop peur, quoi. Je vous le conseille d'ailleurs. Et ouais, donc on allait. Ça fait franchement, quand tu regardes le film un peu, ça fait franchement les méchants nazis alors que.
Oui, non, mais c'est ça, mais tout, voilà, tout te laisse penser que c'est des nazis.
Il y a juste
des
trois gamins qui sont pas là.
Ouais,
fait.
Voilà. Ouais. Ils arrivent à Londres, j'aime bien. Donc toute cette scène où elle voit un bébé, elle essaie des vêtements. Elle essaie des vêtements et peu importe les vêtements qu'elle met.
Ça lui va.
C'est elle
toujours.
Est
non, mais c'est toujours Gal Gadot, donc tu veux pas. À un moment, c'est genre, mets des lunettes, et je sais plus, c'est l'assistante.
C'est la secrétaire, ouais.
C'est
la
secrétaire
ouais.
qui dit,
que ça
ah oui,
la
bah,
plus
va
moche.
Vraiment, ça va vraiment cacher sa beauté, quoi. Et en plus, elle met les lunettes, et t'es là, genre, putain, ça lui va encore
elle
mieux.
Ouais, non, mais elle se regarde dans le miroir.
Celui-ci
à
merveille.
Voilà,
avec les petits chapeaux, là, et tout.
Mais le manteau long et tout. Enfin, ouais, vraiment, encore une fois, les costumes sont super beaux. Bon, déjà, tout va à Gal Gadot, mais.
Et puis j'aime
vraiment
sa petite réplique, il me faut une tenue qui soit pratique, quoi. Alors, vos trucs,
oui,
c'est
ouais,
pas pratique du tout.
Elle met des coups de pied avec tous les trucs qu'elle porte.
Pour déchirer.
Ouais,
bah
et à un moment, elle a une robe bleue.
Bleu-violette, là, qu'elle déchire.
Bon, c'est pas la meilleure, mais elle va parfaitement avec l'épée dans le dos. Tu vois,
ah,
ça rend trop bien avec
ah,
l'épée dans
bleue,
le dos.
À la fin,
oui, voilà. Et donc, ouais, très bon boulot au niveau des costumes dans ce film, quand même. Il faut le dire, quoi. Ils se font attaquer dans une allée, et c'est voilà qu'on voit que, bah, elle est trop forte, quoi. Ouais.
Et qu'elle a encore ses bracelets sous son manteau. C'est ça que, c'est ça qui est important, c'est qu'au final, pendant tout le film, même quand on croit qu'elle a rien, en fait, elle a toujours son costume.
Le costume est toujours là.
Alors que c'est une armure, incroyable et qui a l'air assez épaisse, quand même.
Un peu.
Pas de problème pour elle. Elle est à quel niveau de super force, Wonder Woman?
Ah, tu veux dire par rapport à Superman ou?
Ouais, on va pas toujours comparer à Superman parce que sinon on est dans la merde.
elle est forte, quoi.
On va dire, par exemple, s'il y avait un combat entre Hulk et Wonder Woman.
Oh là là.
Je pense qu'elle est en force brute, elle est plus forte que Hulk.
Mais Hulk, il s'énerve de plus en plus.
Mais il est plus brutal, Hulk.
Ouais, je pense que Hulk gagnerait quand même. Hein. Mais
Par contre, tous les autres Avengers, non, peut-être. Ah, contre Thor, par contre, ça pourrait être intéressant contre Thor.
Ça peut se faire.
Bon, allez, on fait tout le reste de l'épisode.
On fait que des fights. Et effectivement, du coup, je regarde, donc, je rentabilise encore une fois, donc, les bonus du Blu-ray. En fait, il racontait que, par exemple, dans la scène où ils se font attaquer dans la ruelle, il y a, donc, le gars qui s'enfuit quand elle veut demander où est Ares. En fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que n'importe quel autre, héros, en fait, aurait attrapé le gars et l'aurait foutu à terre en lui mettant genre un genou sur la enfin le pied sur la poitrine en lui disant wesh il est où Ares enfin en étant vraiment dans la force brute.
Batman
disait par exemple
where the drugs.
Et là en fait ce qu'il disait c'est que pour montrer à quel point donc Wonder Woman donc encore une fois est un personnage positif, gentil, etc., c'est qu'en fait elle le fait tomber avec le lasso et elle lui dit. Elle se met au-dessus de lui, elle lui dit « Je peux vous aider, mais avant, dites-moi où est Ares, en fait. » Et c'est pour bien montrer la différence du fait qu'elle est quand même beaucoup plus gentille.
Elle est polie.
Oui, polie.
La grande différence, c'est qu'elle est polie.
Qu'elle est sincèrement plus gentille que les autres, quoi.
Mais ça sent qu'il y a une vraie attention portée à ce personnage pour en faire un personnage qui l'accroche auprès du spectateur, quoi. Ça marche super bien.
T'étais pas là quand on a fait les Superman, maintenant que j'y pense, j'allais dire. Non. Ça te fait pas penser à une scène dans un des Superman, cette scène dans l'allée?
Sofiane est en train d'imiter la scène de l'allée quand même.
Alors,
quand
elle
tu
fait
le dis.
Ça avec ça. Et enchantresse. Et donc elle se. T'as raté ça. Hein, ah, parce oui. que la semaine dernière c'était enchantresse.
Il y a une vidéo.
En fait, c'est une scène où Clark et Lois se font braquer dans une ruelle et Clark met son bras devant et il attrape la balle. Et ben ça m'a fait penser à ça, sauf que là les rôles sont inversés. Ouais. Là cette fois c'est la femme qui met son bras devant et qui le sauve. Et je me demande si c'est pas voulu.
Bah plein de moments ça joue sûr. Sur l'inversion du.
Voilà, si c'est pas voulu, viens, genre on reprend la petite scène de Superman, mais cette fois on inverse les rôles quoi. Et ça marche très bien. En plus ça montre à quel point elle a des réflexes de ouf. Et
oui
tout,
bah oui, mais non, mais en plus tout est fait. Enfin le personnage de Steve Trevor pendant tout le film. C'est le second rôle féminin qu'on a l'habitude de voir qui file un coup, enfin le support le support, et là du coup juste les rôles sont inversés et c'est fait à merveille en fait.
C'est la Bond girl.
C'est ouais, c'est ça ouais.
c'est un peu la Bond girl.
Pour reprendre un autre lexique effectivement.
Donc ils vont monter une équipe parce que les généraux ils sont pas cool. C'est là qu'on rencontre Lupin d'ailleurs au passage qui veut arrêter la guerre, faire l'armistice soi-disant.
Ouais, qui les aide même de façon plus ou moins officieuse quoi. Mm-hmm.
Et ils vont monter une équipe, donc il y a Saïd de la haine, il y a Spud de Trainspotting.
Les Avengers du cinéma bis.
C'est ça, les Avengers du cinéma indépendant. Et ça fait plaisir de voir Saïd, c'est quoi son nom de famille déjà?
Tagmaoui.
Tagmaoui. Il fait quoi en ce moment? Lui, il fait beaucoup de trucs américains comme ça?
Bah, il a été naturalisé, je crois, depuis 5-6 ans, même un peu plus, je crois. Enfin, cool. Maintenant, il est vraiment.
Toujours bien aimé cet acteur, toujours très bon. Et Spud de Trainspotting, c'est Spud, quoi. Ouais. Si vous avez vu Trainspotting, vous savez de quoi je parle.
Vous aimez Spud.
Cet accent écossais.
Ah, il est incroyable. Il est incroyable.
Au couteau.
Bon, voilà, après, ça fait un écossais alcoolique,
oui.
Un français qui veut, français charmeur, qui veut
français
un peu.
Charmeur.
Il dit tout le temps, voilà.
Qui ment.
Voilà.
Qui ment beaucoup.
Ouais. Après, j'ai fini la saison 2 de The Boys, donc je vais plus jamais me plaindre des rôles des français. dans les œuvres de super-héros.
T'as un problème avec Serge.
Avec Frenchie. Oh là là, au secours.
Oh ma chérie Kimiko.
Mon cœur.
Oh Pépé Le Pew. Et donc ils partent vers le front et elle dit quel front? Le front de où? Je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais ça m'a fait rire. Le front
c'est,
de quoi?
C'est ouais, quand c'est... elle lit le carnet en fait.
Oui, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de carnet volé par Steve.
Et il y a un autre membre dans l'équipe, c'est un natif américain, et j'ai écrit parce que pourquoi pas. Parce que j'étais là, ça faisait vraiment un peu comme Captain America qui fait son équipe. Là, on est exactement dans le même truc, quoi. Captain America qui, comment il s'appelle, Howling Commanders, là, c'est ça, le Howling Commanders, ouais, c'est ça. Et le commando hurlant. Et donc, elle découvre l'enfer de la guerre.
C'est-à-dire, elle découvre, déjà, ils prennent le train, elle découvre les glaces.
Ah, ça, c'est cool, ça.
Non mais oui, c'est pour ajouter effectivement.
Et en fait, là pendant toute cette période, c'est beaucoup de scènes où elle découvre des trucs.
C'est
en fait.
Ça, c'est ça. Donc là, effectivement, oui, ils prennent le train. Là, ils ont une petite discussion justement au coin du feu avec du coup un peu toute l'équipe. Tu te rends compte que l'Écossais, il a des PTSD, il se met à hurler quand il dort, ce genre de truc. Que l'Amérindien, il dit qu'il veut pas aller aux États-Unis, mais que quitte à autant être ici. Enfin voilà, chacun raconte un peu sa petite histoire quoi.
Je tiens à dire que Esper n'a pas revu le film et elle le sait mieux que nous. Alors que moi je l'ai vu ce matin. Elle est capable de te dire exactement tout ce qui s'est passé dans le film, mais elle l'a pas revu. Voilà. Juste pour remettre les choses.
J'ai beaucoup vu Wonder Woman il y a pas si longtemps, mais oui, enfin ça doit faire peut-être. Ouais, un an ou deux que j'ai pas revu, mais.
Ouais, tu t'en souviens.
Mais
bien,
je l'avais vu beaucoup à l'époque.
Ouais. Après, il a que 3 ans, hein. C'est pas un film très, très vieux.
Bah, tu vois, ouais.
Il s'est passé tellement de trucs en 3 ans que j'ai l'impression que c'était il y a 6 ans.
C'était le monde d'avant, tu sais, quand on n'avait pas de masque. Et
Moi, j'ai pas de masque parce que je suis chez moi.
Donc oui.
Là, elle découvre l'enfer de la guerre.
C'est ça,
là, voilà.
Enfin, on y est.
Et on y est à la meilleure scène du DCU.
Elle est horrifiée. Oui, alors enfin, déjà, effectivement, elle découvre
les
tout
blessés,
ça. Donc elle est horrifiée. Donc les blessés et donc du coup, on se rend compte donc qu'ils sont près de la Belgique. Enfin, qu'ils sont même en Belgique.
En Belgique. Ouais.
Une fois.
Et parce que c'est les Flamands, donc bon.
Oh, deux fois.
Effectivement, ils sont dans les tranchées et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de représentants. Enfin, déjà. Les représentations de la Première Guerre mondiale, on en a eu très peu par rapport à la Seconde Guerre mondiale au cinéma.
Ouais.
On en a eu quand même, et encore début d'année, on avait eu 1917 de Sam Mendes.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'en gros film, surtout récent, c'est assez rare, et j'ai trouvé ça cool d'avoir vraiment un moment où on voit les tranchées, on t'explique effectivement. Donc du coup, t'as la dame qui vient du village de Velde qui est à côté, et elle te dit que qu'ils sont qui sont réduits en esclavage par les Allemands, qui ont besoin d'aide, qui sont en train de mourir de faim et tout.
Ça, ça fait tilt chez Diana.
Exactement. Et effectivement, et c'est le moment où Diana dit, bah, il faut aller la sauver et tout, que Chris lui explique le principe des tranchées, qui lui dit que, bah, ça fait, voilà, des mois, voire des années, que, en fait, personne ne bouge, que.
C'est Twitter.
Ça reste comme ça.
Chacun sur ses positions.
Les tranchées et Twitter, c'est pareil.
Ça, on l'avait jamais fait. Ça. Et donc oui, comme tu dis, effectivement, pour moi, c'est la meilleure scène, enfin même
du DCU et même dans les meilleures scènes de l'histoire des super-héros.
Oui,
bah, c'est une scène tellement mémorable
en termes d'iconisation de personnages.
L'une de mes scènes préférées tout court de film, quoi.
Quand,
vraiment.
Quand tu penses au DCU, à Wonder Woman, c'est une des scènes qui vient forcément à l'esprit.
Ah bah c'est l'affiche du film, hein, de toute façon.
C'est vrai.
Mais elle est, et même pour les même ceux qui n'aiment pas le film, enfin beaucoup de gens sont d'accord pour dire que cette scène est réussie. Donc c'est dire à quel point elle. Elle a mis tout le monde d'accord, quoi.
Ouais, et ensuite, il y a le reste du film.
Voilà, et ensuite, il y a le reste du film.
Là, c'est, d'un seul coup, c'est un peu moins bien, mais c'est dommage parce que t'es tellement... Là, on est au milieu du film et d'un seul coup,
ouais,
c'est
t'es
un...
au top, quoi.
T'es au top d'un coup et après, c'est genre... Ah, t'aurais peut-être mieux fait de garder la scène de trancher pour la fin, tu vois. De la mettre à la fin,
ouais,
ça aurait été peut-être plus, était plus mémorable que de la mettre maintenant.
Et effectivement, ouais, elle traverse le No Man's Land et donc, du coup, c'est elle qui prend les... prend les balles et les obus et tout ce qu'on veut pour que du coup le reste de l'équipe puisse avancer
parce que c'est pas un homme.
Après, oui, parce que c'est ça, parce que effectivement Chris lui dit mais aucun homme n'a jamais réussi à passer, ça m'a vraiment fait penser au Seigneur des Anneaux.
Et là elle enlève son masque.
Ah, et là vraiment. Là en plus c'est surtout elle retire sa cape, elle se met en costume et elle se détache les cheveux. Je veux dire garde tes cheveux attachés. Meuf.
Non.
Mais bon pour l'iconisation ça marche moins bien. Et du coup, pareil, j'ai vu le making-of de ça, où tu vois Gal Gadot qui s'entraîne avec son anorak, et puis à un moment, elle doit le retirer, et il fait très froid, et c'est l'hiver, et vraiment, elle a envie de mourir, la peau.
Pauvre bébé.
Mais c'était... non, c'est la scène-là était très importante pour tout le monde, et ils ont eu conscience, et ils l'ont vraiment réussi. Et même, c'est une très belle intro à toute la scène. En fait, pour moi, tout l'affrontement à Veld est super cool. Tout le monde tire très mal, c'est-à-dire qu'à un moment, ils auraient tous... du tout s'être blessé vraiment très grièvement quasiment pendant toute la bataille, mais je trouve ça vraiment cool le moment où elle arrive, enfin qu'elle saute et qu'elle arrive dans la pièce, qu'elle est entourée de mecs et que du coup il y a le thème de Wonder Woman qui arrive avec la guitare et qu'effectivement elle pousse la table, elle leur met des petits chassés avec ses grandes bottes à talons qui n'ont aucun sens. Et donc du coup après
c'est vrai qu'on dirait des plateformes des années 90, tu sais, genre
ouais,
de trucs,
mais en plus
genre
à moitié
de trucs
ouvert.
Qui portaient à Dance Machine volume 30, tu vois.
Non mais là pour le coup autant j'aime beaucoup le costume de Wonder Woman, autant ses bottes je n'ai jamais compris, c'est-à-dire que ses genoux sont ouverts mais et t'as quand même une botte qui prend
bizarre.
Toute sa jambe, mais c'est ouvert au mollet et elle a des talons de vraiment au moins 12 cm plateforme derrière. Je ne comprends pas. Mais effectivement, et là, c'est cool parce que tu vois qu'elle utilise vraiment tout ce qu'elle a avec elle. Elle utilise son épée, elle utilise son bouclier, elle utilise ses poings, elle utilise son lasso après, plus tard. Enfin, c'est vraiment assez cool, quoi.
Elle utilise le hashtag MeToo et il recule. Pardon.
Mais
c'est vrai que cette scène, elle est cool. Et quand on entend enfin la musique et tout, ça monte... tu te dis quand tu regardes le film, tu te dis ah bon, il y a bien un moment ils vont la mettre la musique quand même.
C'est ça. Quand elle l'éjecte, en plus le mec en sortant, ça fait un peu de DC Sparta, on la voit de profil. Oui. Et elle sort, enfin c'est vraiment cool, quoi.
C'est un peu un film de Snyder Light, c'est-à-dire que
oui.
Ça ressemble un peu par moment à du Snyder,
plein de petits effets,
mais en même temps pas trop non plus.
Bah c'est ça, bah dans les scènes d'action, hein, quand il y a de la slow-mo à balle, t'es obligé de penser à Snyder. Hein.
Enfin, tu sens qu'ils ont essayé de garder la même ligne de conduite dans ce film-là comparé à ce qu'ils avaient fait dans Batman.
Il y a un cahier des charges.
Ouais, voilà, quoi. Pour une fois, parce que Suicide Squad, il n'y avait pas de cahier des charges.
Mais... mais ouais, elle soulève le tank. En fait, c'est le moment où c'est difficile à comprendre jusqu'où, enfin, à quel point elle est forte, en fait.
C'est vrai qu'elle soulève un tank avec un bras, limite.
Elle utilise les deux bras. Ouais. Et je me rappelle qu'à l'époque, cette scène était dans le premier trailer, ou alors le premier teaser, un des deux. Et je me rappelle que ça avait fait scandale, parce qu'en fait, les aisselles de Gal Gadot étaient épilées. Et donc du coup, des gens avaient commencé à dire que c'était pas logique qu'elle ait les aisselles épilées, parce que du coup,
comme dans tous les films d'époque où il y a des gens avec des... qui sont épilés, hein, dans tous les films d'époque. Quoi.
Mais donc, disant que
à part dernièrement, Portrait de la jeune fille en feu, qui m'a... Ou là vraiment, là,
elles sont en fleurs aussi.
Elles sont en fleurs,
en feu et en fleurs.
Mais oui, mais Mais c'est vrai que en disant bah oui, mais si elle a grandi dans une île avec que des femmes et loin du patriarcat, elles avaient aucune raison de s'épiler les jambes. Mais bon, c'est des Amazones. Mmh. Peut-être qu'elles avaient juste pas de poils. Hein, mais
ça aurait, t'imagines même pas à quel point ça aurait fait gueuler si elle avait eu des poils.
Ah grave.
Non mais c'est sans déconner là, il y aurait eu deux fois
moi,
plus de.
Ça m'aurait bien fait marrer juste pour faire chier les rageux. Quoi.
Vraiment tout pour ça. Ça aurait vraiment fait gueuler. Quoi.
Mais et après donc du coup effectivement ils se mettent derrière un, je crois que c'est un bout du tank. Et donc du coup Steve hurle shield et en fait donc elle prend appui dessus pour pouvoir déloger, enfin normalement déloger un sniper qui est tout en haut d'une église et en fait elle détruit la moitié de l'église.
Mais il est sympa le team-up entre les deux.
Ouais, mais grave. Mais pareil, je me suis dit, est-ce qu'elle est censée, comme elle est tellement puissante, est-ce qu'elle est censée être lourde quand elle prend appui dessus, elle devrait les écraser et les tuer, je sais pas, enfin quand elle saute et
Bah Superman a le même problème aussi.
Ouais, bah c'est
une question de contrôle de sa puissance.
Je sais pas ouais comment
tu
comment
te dis,
ça
ouais,
marche.
Quand Superman il marche dans le Daily Planet, normalement il devrait tomber.
Ouais.
Tu vois, enfin, il devrait tomber à travers le sol, quoi.
Mais c'est vraiment cool. Mais je trouve que les Belges sont reconnaissants, mais pas si choqués que ça.
Non.
La réaction des Belges est très étrange parce que non seulement, bon, bah, ils ont détruit l'église, donc ils ont une réaction qui t'as l'impression, ils sont là, ouais, va te faire foutre Dieu. On a mieux que Dieu, on a Gal Gadot.
Je sais pas si un clocher détruit pour des années de guerre, je pense qu'ils ont quand même choisi la bonne solution. Tu
oui,
vois.
Ah oui,
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 pour un clocher détruit.
Oui. Mais, c'est le clocher du village, c'est important.
Mais c'est vrai qu'ils font la fête le soir en mode, bah, c'est cool, c'est fini et on célèbre ça, mais
un petit bal musette là.
Ouais, c'est ça. j'adore. C'est trop. Enfin, c'est. Enfin, je trouve que la petite danse entre avec Steve
très mignonne.
Est très très mignonne. Mais ouais, je sais pas. Je trouve que les gens sont pas si choqués que ça devant ce qu'ils ont vu. Quoi.
C'est la bonne humeur des Belges.
Bah, c'est-à-dire que tout le monde cache Gal Gadot pendant tout le film Wonder ouais. Woman. C'est faut pas qu'on te voie parce qu'avec ta petite tenue et tout.
Ouais.
Enfin, tu vois.
Tu
et au final, quand les gens la voient, ils sont pas forcément.
Ouais.
Bon, en même temps, elle fait des trucs de ouf. Elle vient de détruire un clocher et tout. Donc... mais
pas la soulever.
Mais bon,
le
juste
devant eux, quoi.
Imagine juste la tenue, la première. Enfin,
ouais.
C'est un truc qu'ils avaient jamais vu, quoi. Jamais. La mini-jupe est apparue dans les années 60, je crois. Donc, ouais, il y a quand même eu du boulot, quoi. C'est les Français qui l'ont inventé.
Ouais. Cocorico. Donc oui, du coup, il y a la petite scène mignonne où effectivement,
ils
donc
dansent.
Ils se rapprochent, ils dansent. Après, tu te demandes comment ils ont pu avoir le temps de, enfin voilà, ils ont quand même le temps de célébrer alors que normalement, c'est vite, d'une minute à l'autre, ouais. Les Allemands, il faut qu'on se dépêche. Mais c'est tellement mignon, enfin vraiment.
Juste après,
de...
il y a la scène de baiser qui est super aussi parce qu'elle est encore une fois hyper intimiste et elle est vraiment à l'image de leur relation. Elle marche super bien, très sombre, mais elle marche super bien.
Et puis ça,
moi aussi
ça
j'ai envie d'embrasser les deux.
Ça, ouais,
ça cut au bon moment, c'est bien.
Alors,
fait, quoi.
Je tiens à dire que quand j'étais au Grand Rex, ouais, pour l'avant-première, il y a quelqu'un qui a hurlé baise-la à ce moment-là du film.
Je m'en souviens, ça avait parlé sur Twitter de ce
ouais.
truc. C'est pas toi qui en avais parlé sur
alors,
Twitter.
Je crois que j'en avais parlé, mais d'autres personnes en avaient dit.
Je
en
m'en
avait
souviens
parlé
parce
avant
que
moi.
Quand j'ai vu le film.
Ouais.
Après, j'y ai pensé.
Ouais.
Quel enfer.
Et ça m'avait énervé. Je me suis dit, mais c'était là, enfin pour le coup, c'était vraiment mignon. C'était, enfin voilà, il y a plein de films où t'as compris, ah, allez, c'est la scène de sexe. Oh. Mm. Mais enfin là, pour le coup, c'était un truc tellement beau et tout pour qu'il y ait un gros beauf qui hurle baise-la.
Il y a des gens, ils supportent pas le romantisme. Non, mais
ouais,
c'est vrai.
Ouais,
c'est pour
ouais,
ça qu'on l'envoie de moins en moins dans les blockbusters. Il y a de moins en moins d'histoires d'amour, de trucs comme ça, parce que les gens, ils en ont marre. C'est triste parce que là en plus c'est une bonne histoire là, c'est
bah,
une belle histoire.
Alors, ou alors il était puceau et il voulait que Steve Trevor.
Peut-être qu'il a gueulé baise-moi.
Il voulait vivre à travers Chris Pine.
Moi aussi.
Sa relation avec Gal Gadot.
Moi aussi. Donc elle pense que le méchant pas nazi c'est Ares.
Ouais, c'est oui. Ludendorff, c'est ça.
Ouais, Ludendorff.
Ludendorff.
Même la scène où elle voit de la neige, c'est très mignon.
Mais oui, bah tout est mignon. Enfin, vraiment, elle a un tel sourire. Tout
oui, passant. Et puis ses yeux brillent et tout. Enfin, elle te le vend vraiment bien, quoi. Mais je me demande si on n'est pas encore dans un cas de quelqu'un qui était né pour jouer un rôle et qui pourra peut-être pas faire autre chose dans sa carrière.
Ah oui, bah ouais, je pense que Gal Gadot, ça va être difficile de faire autre chose. Ouais.
Parce que après, vraiment, elle est faite pour ça. Elle a l'accent, la voix, le talent, le truc, elle a tout. Et je me dis,
bah,
elle va être bloquée.
C'est marrant parce qu'elle va faire Cléopâtre pour Patty Jenkins.
Oui. Ça va faire sombrer un studio, ça va être bien.
Mais tu sens qu'il y a un peu cette relation, elle a besoin de faire des personnages très iconiques pour ressortir en fait.
Ah, Cléopâtre, oui, si on me disait de nos jours qui pourrait jouer Cléopâtre.
Oui, je suis d'accord. Ouais. Gal Gadot, ça me va.
Tu lui rajoutes un équipe plus pointu. Et puis voilà.
Mais tu vois que, enfin, que Patty Jenkins, elle aime beaucoup Gal Gadot. Enfin, ouais. Que c'est vraiment sincère et que elle a aimé la diriger et que elle, enfin, et vraiment qu'elle l'admire en même temps qu'elle, qu'elle l'a fait travailler. Enfin, c'est vraiment chouette. Et Patty Jenkins disait que elle-même, c'était une énorme fan de Wonder Woman, en fait. D'où le fait qu'elle était à la fois touchée, stressée, tout ce qu'on veut, et qu'elle est, elle a mis toutes ses tripes pour pouvoir rendre hommage à un perso qu'elle aime autant, quoi.
On a une bonne scène où Steve fait l'espion, mais c'est un peu annulé parce que il y a Wonder Woman qui débarque. Il était à deux doigts d'obtenir des infos de Dr. Poison, là, mais ça ne marche pas.
Ah oui, bah déjà, attends, il y a Steve.
Elle danse
qui
avec
essaie,
le nazi.
Qui essaye de rentrer dans le château des faux nazis, donc. Et,
il
en
rentre
fait,
avec Saïd.
Et voilà, et en fait, il parle anglais avec un accent allemand.
Mais il y a plein de soucis d'accent, je pense. Ah, pendant tout le film, d'ailleurs.
Ils parlent tous allemand avec un accent, anglais avec un accent allemand.
Oui, non, mais
film,
au lieu de parler allemand.
Tout simplement.
Tu te dis, c'est la fête des faux nazis dans leur château de faux nazis. Ils vont tous parler allemand entre eux. Il y en a pas un qui va parler anglais.
Ouais, mais tu peux pas avoir Christophe Waltz et Michael Fassbender dans tous les films. Sinon, les mecs, ils parlent quatre langues, tu vois.
Oui, mais Chris Pine, tu peux lui apprendre deux phrases.
Oui,
en allemand,
phonétique,
parce
quoi.
Que son personnage est censé, en plus, en tant qu'espion, savoir parler allemand. Et même Wonder Woman, hein, plus tard, quand du coup elle discute avec le faux Hitler, elle lui parle en anglais,
ouais.
Et tu sais que Wonder Woman parle sait combien de langues, donc tu comprends pas pourquoi elle lui parle pas allemand non plus.
Mais il me semble qu'il y a des scènes où les Allemands parlent anglais entre eux, mais avec un accent.
Oui, tout le monde parle anglais pendant le film, il y a pas de
en français.
Mais avec l'accent de Papy fait de la résistance. Ouais. Quoi. Mais
je me rends compte que tout à l'heure. Il y avait une blague sur le sexe de Chris Pine et j'ai pas dit Chris Pine. Et donc maintenant, je voudrais revenir un petit peu dans le temps pour la placer maintenant parce que voilà.
Est-ce que tu te sens mieux?
Ah ouais, là, ça fait du bien, là. Ah, ça fait du bien.
Donc oui, du coup, maintenant.
Il gaze tout le village.
Ah oui, alors attends. Ouais, bah déjà, Chris Pine danse avec Dr. Poison.
Mais
oui, non, mais parce que ça me fait rire. Non, mais, et en fait, il la drague à moitié.
Je devrais juste t'inviter à chaque fois et je fais pas de recherche et c'est toi qui fais.
Ah non, mais Wonder Woman, je t'avais dit que j'étais.
Là, ça marche.
J'étais au taquet. Non, mais en fait, j'ai beau aimer le film, il y a plein de trucs qui me font rigoler et effectivement, Wonder Woman, quand elle arrive avec sa robe bleue, qui est incroyable, donc du coup parce que elle a croisé Micheline qui en fait fait la même taille qu'elle apparemment, donc GG.
Qui était toute petite et la robe avait l'air vachement plus large sur elle.
Oui, non, mais c'est clair. Et en plus, du coup, elle arrive, elle a son épée dans le dos.
Ouais.
Et je me rappelle des mèmes qui étaient sortis à l'époque où en fait c'est pas normal quand on voit où est placée la garde au milieu du dos.
Oui.
Enfin, elle devrait avoir l'épée ses fesses.
Mais ça rend bien.
Mais c'est très bizarre. Et en plus.
On a dit no king shame, hein, aussi.
Oui,
dans le podcast.
Non,
attention. Hein, si elle a envie d'avoir une épée là où on pense,
elle a le droit.
Elle fait ce qu'elle veut. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est qu'en plus, elle est censée avoir son armure aussi, en dessous de sa robe. Ce qu'on comprend plus tard, parce que quand elle s'enfuit, du coup, on voit la robe bleue qui vole et elle a son armure en dessous. Tu dis, elle a dansé avec.
Mais surtout, elle danse avec
le
général.
Avec le général. Et il a pas senti. Enfin, je sais pas. Tout ça, c'est bizarre. Mais en tout cas, la scène de danse, je trouve très belle. Mm-hmm. Tout le monde est très beau. Et effectivement, donc maintenant, ils gazent le village et
tout
ils arrivent
village.
À quelques Diana minutes de retard, un truc comme ça.
Diana, elle est vénère, là. Elle tue le méchant panazi.
Oui, déjà, en plus, elle respire le gaz, donc on comprend qu'elle est aussi...
elle est immune. Ouais.
Voilà, elle est immune au gaz toxique. Pourquoi pas. Enfin, du coup, on savait pas avant. Peut-être qu'elle ne savait pas avant.
Et elle se rend compte que la guerre continue quand même.
Voilà, donc la guerre c'est de la merde.
Et je trouve que le film est bien plus intéressant si on continue le point de vue que Arès n'existe pas.
Ouais.
Qu'on se dit qu'il n'y a pas de dieu de la guerre, qu'en fait
tout
non
court,
c'est vraiment
ouais.
les humains. Parce que là il y a quand même le délire où on apprend plus tard qu'ils murmurent dans l'oreille d'à peu près tout le monde pour leur dire quoi faire. Et je trouve que ça aurait été vachement mieux qu'en fait on se rende compte que non, en fait le dieu de la guerre est bien mort, tué par Zeus au début du film. Et en fait,
il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas une histoire pas de dieu.
Quoi,
ouais. Voilà.
Ouais. Et après, c'est le moment où c'est un peu, un peu moins bien.
Là, c'est de la bouillie. Quoi.
Voilà. À partir de là, c'est vraiment le point de rupture où je trouve que c'est en deçà de tout le reste du film. Quoi.
Complètement. Là, on entre dans le troisième acte dit du DCEU.
où c'est de la bouillie numérique.
Dragon Ball.
Il fait nuit.
C'est pas beau.
Non, mais tu compares Batman v Superman à Suicide Squad à celui-là et tu peux voir qu'il y a une
même
vraie
la Justice League. Hein, enfin, Justice League, c'est parce que c'était déjà mauvais avant, donc voilà. Mais là, c'est encore pire.
Justice, c'est pareil.
Quand ils sont vraiment dans cette, je sais même plus où ils sont, dans l'espèce de truc rougeâtre horrible qui vont sauver le village aussi. Enfin, et c'est la même chose.
Ils sont en Latveria, là, je sais plus.
Latveria.
Et en fait, le méchant, donc, c'est l'anglais. Parce que les méchants viennent du monde entier, en fait.
les méchants,
il y en a
partout.
Les méchants, il y en a dans les deux camps. Donc, donnez aux gentils. Envoyez vos sous aux gentils. à gentil Sofiane, 10 rue. J'ai failli dire mon adresse. Là, c'est bon, il me retrouve. Ouais. Là, c'est obligé, il me retrouve. Et il détruit l'épée et lui annonce que donc c'est elle, en fait, le God Killer.
Eh oui. Elle se trouvait fort dépourvue, une fois l'épée brisée, mais.
C'est vrai qu'il y a un mystère pendant tout le film sur, il y a un secret autour de Diana qu'on ne connaît pas, et au final, au moment où ça arrive, en fait, c'est presque trop tard dans le film pour que ça ait de l'impact, je trouve. C'est un peu dommage.
Ouais.
C'est juste quand elle arrive dans le pont de l'Elma.
Oh non. Je me désolidarise de cette blague. Même si elle me fait un peu rire.
Un peu.
Mais
je vise juste un peu, tu vois.
Je me désolidarise de cette blague. Ouais. Donc,
mais,
oui.
Mais quand même, le concept que la Première Guerre mondiale, c'est à cause d'un dieu grec, je trouve ça un peu bizarre.
C'est pas à cause d'un dieu grec, c'est juste
qui murmure dans les oreilles
ouais,
des gens.
Ouais, mais
quoi,
comme
c'est...
il le dit, les humains ont pas
il
besoin
a
de
besoin
lui.
Besoin de grand chose.
Mais juste, il vient rajouter un petit grain de sel pour que le truc s'enflamme
donc
encore plus vite.
Ça sert à rien, en fait.
Écoute,
il joue son rôle de dieu qui vient
qui fout la merde,
ouais, qui vient foutre la merde un peu de partout, quoi.
Mais en plus, c'est surtout il lui propose donc de, enfin à la base, il lui propose même de la
rejoindre.
Une alliance.
C'est un peu à la Kylo Ren, tu vois. Rejoins-moi, on pourra faire de grandes choses.
Ouais, enfin avant lui, il y avait un mec qui s'appelait Dark Vador qui avait fait la même chose. Je sais pas si t'es au courant. Le monde ne s'arrête pas à Kylo Ren, ok.
Alors, le monde s'arrête à Adam Driver à mes yeux, en tout cas pour ce qui concerne la postlogie. Et l'histoire de c'est un homme et une femme, tout ça, c'est la postlogie. C'est
oui.
pas.
Ah oui, c'est un homme et une
Dark
femme.
Vador,
en effet, oui, là pour le coup, oui.
Qu'est-ce qu'on pense du design de Hades
Bah, c'est un méchant de PS3. Quoi.
Ouais.
C'est un peu triste aussi.
Et il garde. Moi, je suis désolé, mais effectivement,
méchant God of War,
je fais partie des gens qui sont choqués par le fait qu'il garde la moustache quand il a
moi,
son casque.
Bien.
C'est toujours Lupin en dessous.
Hein. Oui. Mais oui. Ouais. Mais c'est. Mais du coup, enfin, quand il est en humain, quand il est habillé en anglais de 1917. La moustache, elle est normale. Elle me va, tu vois. Mais...
Quand il se transforme en chien, la moustache, elle reste pas non plus.
Les dieux grecs portent
mais
la moustache.
Mais là, à partir du moment où il se transforme, qu'il a la super armure, qui effectivement est assez laide, et qu'il garde, on voit la moustache à travers les deux trous, là, qu'il y a dans le casque pour ses yeux. Ça y est, moi, j'y arrive plus, quoi.
Enfin, tu te dis qu'il a gardé la gueule de Lupin. Alors, ça veut dire que toute sa vie, en fait, le dieu de la guerre,
mais oui,
sa
parce
tête,
qu'il
ressemblait à un vieux anglais dégueulasse. Un vieux anglais. Non, mais sérieusement, quoi.
Donc voilà, j'avoue que c'est le moment où moi, ça me sort un peu.
Ah non, mais le film se rate totalement dans l'exécution sur la fin. Quoi.
Bah ouais, non, mais c'est.
C'est triste, hein, parce
c'est,
que.
C'est
hormis sur la mort de Steve, peut-être, où ça.
Et justement, ça
bah, du
bien,
coup,
ça.
Ouais, je pense que
pourquoi
que
on est,
en venir,
pourquoi
là,
on mais... est toujours obligé de finir avec une bagarre? On peut pas un jour juste finir sur un thème, sur un vrai thème, là, le thème du. On n'a pas besoin de Dieu, c'est les hommes qui se battent entre eux.
Bah,
et
non, parce
qu'elle se rend compte qu'elle peut rien faire et on flash forward en on flash forward en 39 où elle se rend compte qu'elle peut pas intervenir parce que là il y a pas de Dieu, c'est pareil et donc là on comprend et là, ça finirait de manière très triste. Je suis d'accord.
Oui bah oui, mais en attendant t'as un cahier des charges de blockbuster de super-héros.
Voilà, voilà.
T'as payé pour voir un film d'action, donc du coup tu veux
avec
voir
un troisième acte qui bourrine.
Tu veux voir un moment où ça tape et où ça tape contre quelqu'un qui est à sa hauteur en fait, et pas juste péter une église. Hein. Tu veux la voir partir full Saiyan, bah comme Captain Marvel.
C'est comme dans le premier Thor où en gros il se bat juste contre une armure et il sauve une toute petite ville. Enfin tu vois.
Ouais. Oui.
Et tu te dis ouais c'est un peu.
En termes d'enjeu c'est.
Ouais c'est pas top au niveau de l'enjeu.
Ça c'est
quoi.
Ça c'est que voilà. Oui c'est ça, il y a pas d'envergure quoi, donc t'es obligé de faire ça. Après effectivement c'est le moment où les gens aiment ou les gens aiment pas. Donc bah du coup déjà tu voulais déjà dire que Steve meurt.
Oui.
Je suppose.
Oui.
Voilà.
Ouais,
et donc
piste,
Steve meurt.
Pour l'instant, parce que voilà, visiblement, pour l'instant, il est de retour dans le 84.
Là. C'est ça, ça m'énerve déjà. Franchement, c'est ça fait, c'est dans le top des trucs qui m'énervent le plus.
Il y aura des petites manipulations. Enfin, des
Par
trucs
contre, il porte un jogging des plus saillants.
Avec la banane.
Ouais, avec la banane.
C'est vrai, bah, 84. Hein. Ouais. Mais effectivement, et là, c'est le côté où, du coup, elle arrive à vaincre Ares parce que elle dit que, bah, elle, c'est grâce au pouvoir de l'amour, quoi.
Ouais.
Donc, moi, ça me va. Mais je comprends que ça puisse faire lever les yeux au ciel beaucoup de personnes.
Bah, en fait, non, elle gagne pas parce que c'est le pouvoir de l'amour. Elle gagne parce qu'elle a été créée pour tuer ce mec.
Oui,
donc lui, il utilise ses pouvoirs sur elle et elle les retourne contre lui.
Oui, mais la manière, en fait,
elle unlock
son super pouvoir parce qu'elle elle a son mini flashback d'il y a 10 minutes. Ou Steve sur le tarmac qui lui dit I love you, enfin le lit sur les lèvres, je suppose, parce qu'elle lui dit qu'elle l'entend pas. Ouais. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas très difficile à deviner.
Ça aurait été un parti pris si Wonder Woman était restée sourde pendant tous les autres films.
C'est ça, avec l'oreille, juste avec les acouphènes.
Il y a Batman qui est devant elle, oh, on doit sauver Martha.
mais effectivement, où il vient lui donner la montre et tout, c'est quand elle dit, elle repense à Steve et donc du coup qu'elle est triste et qu'elle lui dit, voilà, moi c'est l'amour, c'est là que.
Qu'elle
explose, quoi.
Moi aussi, je l'aime bien, Chris Pine. je l'ai assez dit, pense.
Ouais, non, mais pareil. En plus, je trouve que la scène du sacrifice, tu te dis... En fait, moi, à partir du moment où je me dis, ça aurait pu être évité, ça m'énerve un peu.
Il y a une petite scène où elle s'énerve et elle tue tout le monde.
Ouais.
Elle tue tous les soldats. Mais au moment où elle doit tuer Dr. Poison, il lui dit, ouais, fais-le. Ouais, il fait l'empereur Palpatine.
Ouais.
Et là, tu te dis, elle a tué tous les soldats.
Qui n'ont rien demandé.
Ils sont plus innocents.
Mais par contre, elle qui a créé des tonnes d'armes, qui en gros leur Joseph Mengele de cette époque-là, une des pires pourritures, elle la laisse en vie. Et là, je fais, à ce moment-là, tu la montres pas tuer des soldats juste avant, quoi.
Oui, bah c'est ça. Ouais. Non, mais là, c'est le moment où, déjà de base, il y avait très peu de choses qui avaient une logique, mais t'acceptais. Mais là, après, c'est trop. c'est plus très cohérent, en plus, donc du coup, d'être un peu moche, encore une fois.
C'est moche.
Mais j'aime bien Dr. Poison, il y a le vent et puis du coup il y a son espèce de masque, enfin elle a son bout de masque en porcelaine, enfin ça
mais
pas
en
trop
fait,
en quoi c'est fait.
On se rend compte qu'elle a le même visage qu'une des méchantes dans Mortal Kombat, je sais plus laquelle. Quand elle enlève son masque, elle a une bouche comme ça. Et...
Ah oui.
D'ailleurs, t'as un masque, s'il était noir,
Milina,
ça ferait très
t'as
Mortal
vu
Kombat.
Je pense que l'étape d'après, c'est de prendre un masque Mortal Kombat, je pense. Donc Milena, je pense, si vous voulez dire. C'est qu'elle a vraiment des grosses dents.
Oui, ouais. Voilà, exactement. Je vois que tu t'y connais en Mortal Kombat, dites-moi.
Évidemment.
Et donc, voilà, elle a tué un dieu, tout simplement, avec des éclairs.
Et le combat est pas ouf.
Il y a Led Zeppelin qui joue à un moment. C'est sympa.
Et puis, il y a le prologue. Enfin, l'épilogue, pardon. Et donc, du coup, ouais,
c'est un film de Nolan.
C'est monté bizarrement. Il y a l'épilogue où, en fait, c'est l'armistice. Et donc, du coup, voilà, elle voit la petite photo de Steve, parce qu'il y a un peu l'hommage aux morts.
Soldat tombé au front.
C'est ça.
C'est un épisode assez court par rapport à d'habitude, dites-moi.
Bah ouais, bah parce qu'on est passé assez vite, hein, sur chaque truc.
Mais non, mais en même temps, c'était soit on décrivait tout le film moment par moment et au final on apprend pas, ça sert pas non plus énormément, c'est mieux d'avoir une conversation, n'est-ce pas?
Bah oui. Donc oui, effectivement, et donc l'épilogue où elle a encore une fois un très beau manteau bleu nuit, donc le point fashion avec un petit une petite écharpe rouge et effectivement voilà, elle s'en va quoi.
Voilà, elle décide de tourner le dos aux humains.
À tout.
Et pourquoi elle retourne pas sur Témiscaire en fait?
Je sais pas.
Bah parce qu'elle
c'est pas vraiment expliqué pourquoi
elle
décide de rester
devenue,
dans le monde.
Entre guillemets ambassadrice
des humains
au nom de Témiscaire quoi.
Ah donc Témiscaire tout le monde est au courant maintenant.
Non mais elle par rapport à Témiscaire elle est censée être l'ambassadrice auprès des humains en fait.
Oui voilà
dans
le lore.
C'est ça.
Voilà dans le lore de Wonder Woman c'est
oui,
ça.
C'est ça.
Du coup elle reste la gardienne des humains et elle fait en sorte qu'il ne leur arrive rien.
C'est plus utile sur Terre que sur l'île en fait.
OK. Et elle retape des statues pour le Louvre.
Voilà.
C'est ça son truc. Moi.
C'est pas ouais. Bah écoute, elle est aussi vieille que peut-être la plupart des trucs qu'elle retape donc
C'est dans Justice League on l'a voir taper une Et elle est habillée dans une robe blanche.
Ah ouais, elle est incroyable,
c'est
vrai.
Fashion Week, quoi. C'est genre, elle est habillée en mode Fashion Week, elle est en train de retaper la petite statue comme ça.
Je vous en prie, si vous travaillez au Louvre et que vous êtes conservateur, dites-nous.
Faites-nous signe si vous vous habillez comme ça, quoi. Faites-nous signe si vous ressemblez à Gal Gadot aussi.
Ah bah oui, forcément.
Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Wonder Woman?
Juste avant, il y a un super générique de fin, je trouve.
Ouais, il est très beau.
Esthétiquement, et super
joli.
Ah,
j'ai arrêté avant. Mmh.
Avec plein de, enfin, on dirait des artworks du film.
Oui,
en tout cas,
c'est
des,
ça.
Il
ouais,
n'y a pas de scène post-crédit. Non, non. Rassurez-moi, ok. J'ai rien raté.
T'en as pas loupé cette fois.
Cette fois, ouais, parce que Suicide Squad, j'ai raté celle de Suicide Squad. Alors.
Je sais même plus ce que c'était, la post-crédit. De...
C'est Bruce Wayne, je sais plus trop.
C'est
quoi.
Bruce Wayne qui parle avec Amanda Waller.
Ah oui. Ah oui, ouais, voilà.
C'est Ben Affleck qui dit pourquoi je suis là.
C'était mémorable, vraiment mémorable.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Wonder Woman ?
Bah, c'est un film qui a un peu tous les défauts du blockbuster un peu actuel, mais en même temps, je trouve qu'il le fait tellement bien comparé à tous les autres films du DC que, genre, moi, je trouve que c'est presque le meilleur film DC, DCEU en tout cas. Mmh. Et ouais, comme on en parlait sur la romance, moi, je trouve que c'est une des meilleures romances qu'on ait eues. Le personnage est super bien iconisé et ça, moi, il marque ce personnage et j'ai envie de le revoir encore, même dans 84, même si ça a pas l'air d'être foufou. On verra, mais
ouais,
j'ai envie de le voir encore et évoluer justement dans d'autres histoires et c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir eu Justice League juste après qui fait ce qu'il fait avec le personnage. Quoi. Mais moi j'adore ce film, même s'il a des défauts et j'en suis bien conscient. Quoi.
Mm-hmm. Oui bah pareil, hein, moi aussi c'est mon préféré de tous et de loin. Malgré donc du coup un dernier acte complètement pété, il reste quand même bien au-dessus de la fange.
Moi c'est Shazam mon préféré.
Ah alors j'ai pas vu Shazam.
Ah, bah, voilà.
Mais le synopsis me cringe déjà. Donc...
Non
mais
j'adore Shazam.
Je lui donnerai sa chance parce qu'effectivement je peux pas dire objectivement.
Il mérite d'avoir sa chance.
Si j'en ai raté un. Mais hormis Shazam.
Donc
Wonder Woman, oui bah moi il m'a donné tout ce que je voulais en fait. Enfin vraiment. Voilà, malgré le fait que vraiment il n'est pas parfait du tout, on peut lui reprocher plein de choses et quand il est sorti, effectivement plein de gens l'ont critiqué pour plein de raisons tout à fait légitimes, il y a pas de souci. Mais en attendant, je vois le film quand je vois Themyscira, j'y crois, comme je disais, j'ai envie de vivre là-bas, c'est génial quand je vois toutes ces femmes qui vivent enfin toutes ces guerrières qui vivent en harmonie, qui s'entraînent pour voilà le plaisir du combat. Et qui vivent leur meilleure vie, j'y crois. Quand je vois Gal Gadot, c'est ça. Enfin, en super héroïne de la grande trinité d'ici et faire tout ce qu'elle fait, j'y crois. Effectivement, la relation avec Steve est géniale parce que il est vraiment le support parfait, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. C'est quand même un espion et un grand soldat. Il fait plein de choses, mais c'est elle qui lead et il la respecte et il l'écoute. Ce qui est une chose, enfin, c'est très naturel dans leur relation où vraiment il comprend que, effectivement, enfin, elle est supérieure à lui sur ces domaines-là. Donc, du coup, il peut lui faire confiance quand ils sont justement en Belgique. Elle lui dit, je vais en premier, je vais là et après eux, ils font leur vie, mais. Tout ça dans leur relation est très touchante. Ça fait pas forcer, il y a une très belle alchimie entre les deux et tout. Sachant que Chris Pine, avant Wonder Woman, j'étais pas très fan. Je l'aime pas dans Star Trek.
Ah ouais.
Il est voilà. Bien dans Star Trek.
Ouais, mais j'aime pas. Et je trouve qu'il a une tête de Ken bizarre.
Il a un peu une tête de Ken.
Il a une tête de Ken qui s'est mal rasée.
Ouais. mais franchement, Wonder Woman m'a réconcilié aussi avec Chris Pine. Enfin, il est c'est ça, il est charmant. Enfin, il y a plein de choses. Et effectivement, contrairement au scénario par exemple de Josh Whedon, il est son second, mais il le fait bien. Il y a rien de rabaissant et
il
y a rien.
Non, il a la place qu'il doit occuper.
C'est ça. Et vraiment d'une manière vraiment vraiment bien faite. Je trouve que le film, mis à part la CGI cracra, on va dire la majorité du temps est assez beau. Il y a des beaux plans, donc effectivement rien ne topera jamais la scène du Nomadsland, mais reste du temps c'est assez joli. J'aime bien le travail qui a été fait. J'ai vu sur les bonus qu'ils avaient repris le travail d'un peintre qui date de la Première Guerre mondiale. Alors attendez, j'ai noté le nom comme ça. On fait genre on a bien travaillé. Qui s'appelle John Singer Sargent et en fait c'est un mec qui a fait beaucoup en fait justement le travail un peu sur la lumière, sur les visages qui sont bien éclairés, le reste qui est un peu sombre et tout. Et c'est ce qu'effectivement on voit, on voyait certaines scènes où en fait les noirs sont très noirs et il y a des bouts de couleurs qui popent un peu, qui sont un peu saturés. Et on voit ça dans le film. Arès, jusqu'au moment où il se transforme, ça va. Après, c'est flingué. Mais...
C'est vraiment tout ce délire-là. Hein, qui...
Ouais, ouais, mais...
Mais quoi, les 15 dernières minutes du film, un truc
bah,
comme
c'est,
ça.
C'est ça. Mais sinon, le reste... Enfin, le reste, j'aime bien. Enfin, j'adore Saïd Tagmaoui. Donc... voilà, à chaque fois où il est là, je... j'aime bien. Et puis, en plus, il raconte... Enfin, quand il raconte aussi un peu son histoire, quand il dit que à la base, il voulait être acteur et qu'il savait que, bah, malheureusement...
Une super réplique
il...
par rapport à ça.
Voilà, ouais. Qu'il pouvait pas l'être. Enfin... il y a plein de choses très touchantes. Bon, à la rigueur, ouais, sa mère, c'est un peu, bah, voilà, enfin, il y a plein de trucs très clichés où on veut aller un peu vite, mais l'origin story est cool. Ils ont réussi à caser, tout ça dans le film. Et après, quand tu reprends le film en marche, enfin, on va dire la franchise en marche et que tu redécouvres Wonder Woman, bah, t'as bien compris tout ce qui s'est passé dans sa tête. Le moment où la photo a été prise, la fameuse, tout ce qu'elle vient d'endurer, ça, la peine qu'elle a depuis la perte de Steve, enfin. Et c'est un personnage, encore une fois, très positif. Donc, encore une fois, malgré le fait qu'à la fin, elle tue tout le monde et qu'elle tue pas Dr. Price. Tout ça, tout ça. Mais jusque, voilà, jusqu'au moment fatidique où ça se retourne.
Il y a un truc que j'ai envie de dire. C'est enfin un personnage sympathique.
Ouais.
Ouais.
Parce que là, on vient d'avoir Superman qui est complètement dépressif au possible. Lui, s'il pouvait se suicider, il le ferait. Ouais. On a Batman qui est en pleine rage totale, qui veut tuer tout le monde. Qui est pas forcément le mec le plus joyeux du monde. Et là, on a enfin Wonder Woman qui est pleine d'espoir et qui a ce sourire radieux, tu vois.
Un personnage engageant. Ouais.
Voilà, et ça fait du bien, franchement, ça fait du bien, en fait, tout simplement. Après, là, on a enchaîné les trois films dans Suicide Squad, c'était pas des personnages très, 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 très joyeux non plus. Et ouais, ça fait du bien d'avoir un personnage comme ça, je trouve.
Non, mais un personnage positif, t'as envie de la suivre et... Et encore une fois, enfin, on a attendu tellement longtemps avant d'avoir un film pas flingué avec un lead féminin au niveau des super-héros. Déjà, au niveau des blockbusters, c'est déjà assez compliqué de trouver un film avec un lead féminin de film d'action.
Tu la classes où par rapport à Captain Marvel, par exemple?
Alors,
au niveau film, hein, je parle.
Ouais. C'est compliqué. Captain Marvel, c'est pas ultra bien réalisé. Mais, j'ai eu aussi des scènes qui m'ont vraiment, que j'ai vraiment kiffé. Il y a plein de moments qui sont assez qui ont parlé à mon petit Kokoro dans Captain Marvel. Mais encore une fois, je trouve ça triste de devoir comparer à chaque fois Wonder Woman et Captain Marvel, parce que ça montre bien qu'on a eu que ça, en fait.
Bah c'est ça le problème. On va avoir Black Widow, mais sinon
c'est ça. Et que, du coup, de se dire, bah, quand Captain Marvel est sorti, il y avait plein de gens qui disaient, ah oui, c'est de la merde, parce que ça par exemple, dans Wonder Woman, c'était mieux fait. Tu dis, ouais, enfin, bon, quand t'as,
il y en a une dans l'espace, il y en a une autre qui est grecque, il y a quand même une grosse différence.
Il y a la brune, il y a la blonde,
mais
t'as envie de dire, quand Man of Steel est sorti, à la rigueur, tu le comparais à d'autres Superman, mais tu comparais pas Man of Steel avec The Dark Knight. Et ça veut rien dire. Et donc, du coup, encore une fois, enfin, ça veut dire qu'il y a tellement peu de personnages féminins sympas que t'es obligé un peu, déjà que dans la vraie vie, on met en compétition tout le temps les femmes, et là, tu mets en compétition aussi les films. Mais c'est assez mignon de voir, tu voyais les deux actrices, tu vois souvent, je crois que c'est quand Captain Marvel est sorti, il y avait Brie Larson et Gal Gadot qui partageaient beaucoup de fanart de Wonder Woman et Captain Marvel qui se faisaient des câlins.
Brie Larson s'en est pris plein la tronche,
ouais.
Elle aussi.
Vraiment. Mais parce que Brie Larson a assumé aussi le côté féministe.
Oui, voilà.
Et évidemment, les geeks, ça les aime pas. Hein. Ah, c'est compliqué.
elle a juste dit une phrase et ça l'a ruiné dans la tête de plein de gens.
C'est ça.
Je voulais votre avis sur un truc, parce que je me souviens, quand Wonder Woman est sorti, on disait que c'était le film le plus Marvel des films DC. Vous trouvez aussi un peu qu'il y a cette...
Non.
Dans la construction du film, non?
Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à Captain America ou Thor,
ouais.
Et ce genre de film.
La construction, hein. Là-bas, c'est oui, c'est.
Mais ça, c'est le problème des films de super-héros en général. Ouais. Hein, c'est pas. Tu regardes les X-Men, c'était le même truc, alors que c'était la Fox. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment.
À partir du moment où il faut te caser l'origin story et le.
Il faut Heroes
monde,
Journey. Il faut les trois actes, bien sûr, les trois actes tout le temps, les trois actes. Et au bout d'un moment, ça saoule, les trois actes. Parce que
dans BVS, il y en a sept. Hein.
Dans BVS, il y en a sept. Que Wonder Woman, étant donné que je ne l'avais pas revu depuis le cinéma et qu'au cinéma j'avais pas été, je pense que j'étais fatigué ce jour-là, j'étais pas, tu sais, des fois tu vas au cinéma et t'es pas très d'humeur, ça arrive.
T'es pas dans le mood.
Voilà. Et je l'avais pas super aimé. Je crois que c'était à partir de No Man's Land que je me suis fait chier. Juste après, que c'est là que ça a commencé un peu à tanguer un peu. Mais là, la revoyure, c'était une agréable surprise, et il vient se placer tranquillement dans mes films préférés du DCEU, et même il sera bien placé si un jour on fait tous les films super-héros qu'on a fait et on les classe, il sera bien placé, je pense, il aura pas à avoir honte. quel dommage d'avoir raté la fin. Mmh.
Ouais.
C'est vraiment, vraiment dommage. Et ouais, c'est un truc qu'on pourrait dire même Batman v Superman. Bon, nous personnellement, Esper et moi, on n'a pas trop aimé du début à la fin. C'était pas trop notre truc.
Ouais, mais il y a une période où c'est pire.
Mais on peut dire qu'il y a un moment où dans le film,
ça shift.
Ça commence à partir en yuck et. Et là, on peut voir la même chose et encore Man of Steel, c'est même Man of Steel souffre un peu de ça aussi. Hein,
oui,
le troisième acte,
ouais.
Ils détruisent tout et c'est voilà.
Mais parce que c'est le truc que t'attends en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est vraiment la scène que normalement en tant que fan t'attends le plus. T'as envie de voir tes jouets se taper en fait. Et ça marche pas, donc c'est dommage.
Moi, je jouais avec mes jouets autrement. Et donc. Donc on a bien aimé Wonder Woman,
bah
hein,
oui,
voilà.
carrément. Oui,
je crois
bah
que Zoltan
oui.
il disait qu'il l'aimait bien
ouais,
aussi, hein,
et lui,
si je me trompe pas.
Il nous avait dit que ce qui l'intéressait, c'était surtout le message qu'il y avait derrière.
Ouais,
le
message
film,
que tous les méchants, que tous les hommes sont méchants. Là, ça m'étonne pas qu'il aime bien ce message. Non, lui, ce qui l'intéressait, c'était que pendant toute une partie du film, on nous faisait croire que c'était les Allemands et qu'en fait, non, c'était un Anglais. Donc ça veut pas vraiment dire, sauf que c'était pas vraiment un Anglais, c'était un dieu grec. Donc au final, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de savoir le message exact qu'ils veulent faire passer avec tout ça. Quoi.
Et d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est que le twist de, en fait, donc elle n'est pas née dans l'argile et c'est la fille de Zeus, etc. C'est un twist qu'on a aussi eu dans les comics il y a pas longtemps, en fait.
Dans le New 52.
Donc, exactement, ouais. Donc, du coup, j'avais trouvé ça cool. J'étais un peu fière de moi parce que j'avais un peu vu venir, parce que j'avais adoré les New 52.
Toi, t'es trop la fille qui dit « Moi, j'ai lu les livres. » C'est vachement mieux dans les livres.
J'ai lu Harry Potter avant que ça sorte au cinéma. J'avais le même âge
mieux.
Que Harry, ok.
Non, mais Tolkien, il fait vraiment mieux. Laisse tomber.
Non, bon, non, en plus, au contraire, je trouvais ça bien. Enfin, justement, je trouvais que ça n'a fait que enrichir mon visionnage au lieu de me dire « Ah oui, c'est pourri, quoi. » Mais bon.
Donc, on a
donc,
bien
ouais,
aimé.
Oui, Wonder Woman, c'est un grand oui. Et c'est ça, et du coup, le problème, c'est que je n'ai vu qu'un trailer de Wonder Woman 84. Et le peu que j'ai vu, effectivement, j'ai vu Steve, donc avec son petit jogging. Et du coup, ça m'a déjà énervé. Je me suis dit, il pourrait me trouver n'importe quelle justification. C'est déjà... ce sera déjà pourri parce qu'il est là, en fait.
C'est le dieu du temps. Le dieu de la mort.
Oui, bah oui, mais
un
c'est...
Truc dans le genre,
ouais, mais dans tous les cas, ça ruine pour... Enfin, Wonder Woman se construit en faisant le deuil de Steve.
Exactement.
Donc du coup, te le refaire popper dans les années 80, d'une manière ou d'une autre, c'est pourri.
Voilà. C'est peut-être son fils. C'est peut-être Steve Junior.
Oh là là, non, bah oui, bah dans tous les cas, c'est... Enfin voilà, c'est
mais
pas...
Je pense que ça va être une question de manipulation autour justement des envies de Diana, qu'elle a besoin qu'il revienne,
ouais.
Et du coup, il va revenir d'une manière ou d'une autre. Quoi,
mais en attendant, en plus, on voit son armure dans le trailer, son armure dorée qui est incroyable.
Ah, oui,
donc ça, j'ai hâte un peu de l'avoir...
Avec ses ailes.
D'avoir dans le film comme
j'ai
ça.
J'ai un peu moins envie de voir Cheetah, mais...
Ouais, bah alors Cheetah, justement, j'ai pas vu le trailer où
ouais,
on la
regarde,
voit en Cheetah.
Regarde-le, on dirait 4, hein, c'est 4.
Je ne veux pas, justement, je vais...
Préserve-toi,
me suis dit,
franchement.
Je me le découvrirai in situ. En plus, j'adore Kristen Wiig, donc on parlait de Paul Feig tout à l'heure et tout.
Ouais,
et j'adore, voilà, j'adore cette nana. Et Cheetah, en plus, c'est vraiment un gros personnage dans l'univers de Wonder Woman, qui a pas des méchants aussi incroyables que, voilà. Enfin, difficile
elle
de faire des méchants
aussi
incroyables
Poison, justement.
Que Batman, hein. Parce que bon, voilà. Après, les autres, ils paraissent tous un peu flingués. Mais c'est vrai que Wonder Woman, ces méchants, ils sont pas toujours,
On dit tout le temps que c'est
ouf.
Batman et Spider-Man qui ont les meilleurs méchants.
Ouais, ouais, c'est clair.
Voilà. De loin, c'est Batman clair. Et Spider-Man, y a pas photo. Quoi.
Et voilà. Coïncidence, c'est ceux qui ont le plus de films, je pense.
Je propose un truc. Dans le podcast, on a parlé de tous les Chris. Et d'habitude, quand on parle de tous les Jokers, on fait un petit classement. Quand on parle de tous les Batman, on fait un petit classement. Donc, je propose qu'on, entre Chris Pratt, Chris Hemsworth, ouais, Chris Evans, ouais, et Chris Pine. Alors, quel est votre classement? Voilà.
Alors, attends. On part sur, et c'est important. Est-ce qu'on part du physique? Est-ce qu'on parle
oui.
de la...
C'est un tout, c'est un tout. Ouais.
Globalement.
Du coup, physique.
Si tu veux, on commence par le physique. Qui gagne physique, c'est Chris Hemsworth.
Ah, moi, Evans,
ouais,
hein.
Ouais.
Moi,
ouais.
Je suis plus Team
T'es
Evans.
T'es plus Evans,
ouais.
Toi? Ok. Ouais, moi, je dirais Chris Hemsworth ouais, quand même. Bah, non, mais il y a un niveau au-dessus, le mec.
Ouais,
hein.
Ouais. C'est un monstre.
Au enfin, niveau, vraiment, ouais. En tant que personne, je crois que Chris Pine est vraiment cool. Et en tant qu'acteur, j'aime bien Chris Evans.
Alors, Chris Evans adore les chiens.
Oui.
Donc,
oui.
Point pour Chris Evans.
Point pour Chris Evans.
Voilà.
Puis c'est un bon gars, Chris Evans.
Ouais, alors,
c'est Captain America dans la vraie
ça
vie.
M'a fait, ouais,
et puis il ouvre
mais...
sa gueule sur pas mal de sujets.
Il, ouais,
qui sont
oui, politiquement
nécessaires,
parlant et
ouais.
Plein de choses. Par contre, d'ailleurs, j'ai vu que c'est cette semaine-là, justement, Chris Pratt, il y a des.
On a pris plein la tronche.
Ouais,
bah, justement, parce qu'il y avait un classement des Chris et toute personne n'a voté pour lui.
Voilà.
Et donc tous les acteurs de Avengers
l'ont quand même soutenu. Ouais.
L'ont soutenu. Ce qui est honteux, non, parce que quand Brie Larson, justement, voilà. On en parlait, quand Brie Larson se prenait des attaques dans la gueule, il y a personne qui a rien dit. Et là, le mec, il perd un classement du meilleur Chris.
Merci, merci.
Et son petit égo fragile, il a fait, Robert Downey, s'il te plaît, vas-y.
J'avais même pas vu Robert Downey Jr., j'ai vu les tweets de Mark Ruffalo et de James Gunn.
James Gunn, tous formidables.
J'étais là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Mais
ça
venant,
y est, le
venant
grand
de Gunn, ça m'étonne pas, mais les autres personnages plus liés aux Avengers, justement, je trouve, c'est un peu plus déplacé.
Pour les gens qui savent pas pourquoi est-ce que Chris Pratt est le moins bien aimé des Chris, c'est essentiellement parce que il est très conservateur. Bon, ça encore, voilà, quoi.
C'est son
bon,
choix.
Ça arrive, hein. Mais surtout qu'il fait partie d'une église qui est très, très, très anti-LGBT.
Ouais, qui fait des thérapies de conversion.
Qui fait des thérapies de conversion et ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que c'est très mal vu.
Son beau-père de C. Schwarzenegger.
Oui, c'est encore.
Oui, non, mais c'est pour montrer le niveau de républicain à balles.
Et pourtant, c'est pas le plus républicain
des
républicains.
Ouais, c'est un républicain de gauche.
Ouais, c'est ça.
Mais oui, il est pro tous les trucs qu'on aime pas trop, quoi. Donc, ouais.
Donc voilà, c'est pour ça que les gens ont pas voté pour lui, soit ils ont leur raison.
Bah, puis c'est pas le meilleur acteur des quatre, honnêtement.
Il a quitté Anna Faris alors qu'elle est super cool.
Mais oui, et je crois que du coup la seule personne qui avait défendu Brie Larson, je crois que c'était Don Cheadle. Hein.
Ah ouais.
Ouais.
Et il est cool Don Cheadle aussi. Il va gagner notre tournoi des Chris. Bien joué Don Cheadle, bravo.
Mais sinon ouais, quand tu vois que Brie Larson, enfin vraiment, elle s'est fait. Mais
elle avait pas été défendue par l'actrice qui fait Valkyrie. J'ai mangé son nom.
Ah Tessa Thompson.
Mais oui,
ouais, bah ouais, ouais.
C'est un ange.
Qui était quand même venu.
Ah bah Tessa Thompson, best meuf. Elle est dans mon top des best meufs tout court. Mais ouais, mais effectivement, enfin, c'est dingue de se dire que Brie Larson, ils l'ont vraiment laissé gérer un peu toute seule. Toute seule avec des guillemets, on parle du marketing d'un film du MCU, hein, mais.
Ah oui,
de gérer la promo, enfin, elle a pas été soutenue comme elle aurait dû être soutenue, alors qu'elle a rien fait de mal, au contraire.
Cherche Brie Larson sur YouTube et tu vas voir les vidéos de 2 heures de mecs qui versent leur haine à longueur de temps.
Et encore maintenant, justement, elle a fait sa chaîne YouTube, elle a encore des vieux haters qui viennent la faire chier.
Et le pire, c'est qu'elle reste quand même dans le milieu Twitter, YouTube et tout.
Oui, ça m'étonne qu'elle ait pas encore désactivé ses réseaux sociaux, hein, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait, hein.
Et ben voilà. Donc notre Chris préféré, ça va jouer entre Evans et Hemsworth, hein. Voilà,
ouais, bah en plus j'ai revu Knives Out il y a pas longtemps. Evans est
même
vraiment
cool,
bien
quand
dedans.
Même.
Très cool dedans. Ouais. Donc, bon. Parlons un petit peu des news actuelles avant de se quitter. Il y a Jared Leto qui a été confirmé pour la Snyder Cut de Justice League. Alors, on commence par quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de cette news?
Bon alors, il devait pas être fini de filmer ce putain de film. Il était pas censé être terminé, puis il fallait juste
faire les effets spéciaux.
Voilà, fallait remonter les deux fichiers qui traînaient au fin fond d'un disque dur.
Non, mais là ils ont réinvesti 70 millions de plus
pour retourner des scènes.
Déjà ils ont payé 50 millions pour reprendre le projet et tout, et ensuite 70 millions de plus pour refaire des scènes.
Non mais c'est vrai, ça s'appelle le foutage de gueule. Hein.
Et donc on va avoir Jared Leto.
Logiquement pour un flashback, hein.
Alors,
ce qu'on se disait.
Voilà ce qu'on se disait parce qu'on a fait un épisode spécial sur Patreon où on a classé tous nos trucs Batman préférés. On a fait une tier list avec tous les trucs Batman.
Yes.
Et hélas, le son était pourri. Et donc j'ai pas pu le mettre en ligne. Et dedans, on donnait notre avis sur Jared Leto bien en détail. Mais ce qu'on disait essentiellement, c'est que s'il revient, ce serait très certainement pour un flashback de la mort de Robin. Parce que c'est un peu le truc qui définit ce Batman-là et on l'a jamais vu. Donc ce serait un peu logique qu'il y ait ça. Ou sinon, c'est à la fin, ils nous refont une scène Legion of Doom.
Et il y a
Luthor, il y a...
Deathstroke.
Ils ont confirmé que Deathstroke ou Joe Mangoliano allait revenir aussi. Et qui lui apparaissait un quart de seconde dans
un dixième de seconde même.
Sacré Joe Mangaliano. Dans quoi il s'est foutu lui aussi.
Il était bien dans Magic Mike.
Oui, mais moi je l'adore, c'est pour ça, c'est parce que j'adore ce mec, je me dis dans quoi il s'est lancé là.
Il est super charismatique, il aurait pu avoir une autre carrière, je trouve ce mec.
Oui, grave. Grave. Ouais. Bah ouais, mais c'est ça.
Tu l'as connu dans True Blood, je crois.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Quand tu commences avec True Blood, je pense que.
Tu peux aller que vers le haut. Ouais. Tu peux pas descendre plus bas. À moins que tu fasses Vampire Diaries d'un coup, mais sinon.
Oh! Non, en plus, je veux pas critiquer True Blood, j'ai à peine regardé. Donc.
Et c'est tout au niveau des news, Max?
Oui, après, il y a 2-3 fins de tournage pour du Marvel, mais rien d'exceptionnel. Mais c'est surtout, ouais, cette Justice League qui commence à grossir.
Eh, mais je pense à ça, on va avoir des personnages féminins bientôt dans des trucs. C'est dans les séries Marvel où il va y avoir beaucoup de personnages féminins qui vont arriver. Mm-hmm. Ça, c'est cool. Miss Marvel, She-Hulk, la nouvelle Hawkeye.
Hawkeye, bah, même WandaVision.
Wanda, bien sûr. Que j'ai hâte de voir.
Ouais, ça, je suis curieuse parce que ça a l'air de changer un peu, mais bon, toutes les fois où j'ai dit ça, ça changeait pas tellement.
C'est quand la dernière fois que t'as dit ça?
Bah non, mais même genre à la toute base, quand on te vend New Mutants, c'est qu'on dit que ça va être un film d'horreur dans l'univers de Marvel.
Alors que c'est un film de teenager.
Voilà, c'est pas du tout un film d'horreur. Je me suis dit ça.
J'ai dit que c'était un épisode moyen de Buffy. C'est comme ça que j'avais noté.
Ça me va. Mais ouais, à chaque fois où on te fait croire un petit twist sur la formule, au final, bon, le twist est minime, quoi.
Ouais, au final, ceux qui ont le plus changé quelque chose, c'est peut-être Black Panther, au final, peut-être.
Black Panther, parce qu'il était bien, mais tu...
Voilà,
en soi,
mais
la formule,
avec un méchant, quand même assez différent.
Thor Ragnarok, qui c'est vraiment le personnage pour faire autre chose. Mais là, je pense que c'est surtout le format série qui reste peut-être... qui risque d'apporter un truc un peu différent par rapport au film, donc c'est là-dessus moi que j'attends des choses en fait.
Ouais, j'ai hâte de voir She-Hulk par exemple, je me demande ce qu'ils vont faire.
Et d'ailleurs, du coup, l'actrice a démenti au final.
A démenti.
Tatiana Maslany ne va pas jouer She-Hulk.
Elle a dit qu'elle n'avait rien signé, elle a pas dit qu'elle n'avait pas le jouer.
Ah ouais, ouais.
Donc
bon, c'est-à-dire que ça va re-être signé.
C'est une histoire de sous à mon avis.
Ça fera des news dans 2 semaines quand ce sera vraiment signé, et puis voilà. On verra.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Justice League. Je sais pas si tu pourras être là, Vesper, parce qu'on va sûrement faire ça en journée.
Ah ouais, non, malheureusement.
On va faire ça mardi en journée.
Oh là là.
Ah, mais si t'as des trucs à nous dire sur Justice League, tu me les envoies et on les lira à l'antenne.
Alors, tu peux les rajouter, tu peux le dire maintenant, c'est de la merde.
Ah. Voilà. Est-ce que c'est un con, c'est lequel le con, c'est Whedon ou Snyder? Attention.
Oh là là. Ouais, non, mais c'est triste parce que c'est triste pour Snyder à ce moment-là de sa vie. Donc du coup, je peux
ça,
autant
évident,
BVS, on peut l'attaquer, autant pour Justice League, je n'attaquerai pas un homme à terre.
On l'attaquera si on n'aime pas son film à lui.
Voilà,
il va vraiment le faire lui-même. Voilà. Donc là, on verra.
Là, on aura le temps. Ouais. Mais sinon, oui, non, mais enfin, je pense qu'on a rarement fait pire catastrophe industrielle que Justice League.
Je pense que c'est le pire.
Sur tous les sens du terme. Enfin, c'est un monstre de Frankenstein, ce truc. C'est affreux. À partir du moment où même la colorimétrie du film change entre les scènes de Snyder et Josh Whedon, c'est vraiment, tout le monde en a rien eu à foutre et qu'il fallait sortir dans les temps, quoi.
Quand un film commence avec un sans-abri avec une pancarte I tried, en termes de notes d'intention, ça c'est Snyder.
Ça c'est Snyder.
Okay.
Mais c'est incroyable. Bah là, enfin, du coup, je vais vite fait mon sur Wonder Woman, hein, mais Wonder Woman, la différence entre filmé par Patty Jenkins et par Whedon, enfin par les deux, enfin par Snyder et Whedon, je sais plus, c'est les scènes du début lesquelles c'est, mais
Flash il tombe dans ses seins là.
Ouais, non, mais ça, ouais, mais même la scène du début où elle est dans une banque, alors je n'ai pas revu Justice League depuis le cinéma,
si,
volontairement.
Elle se fait Rose Bolton de Game of Thrones.
Ah oui, voilà. Mais donc du coup la scène d'action au début, vraiment, c'est genre, enfin là, à la fin, tu te croirais dans un cliché de ton animé préféré, quoi. Ouais. C'est-à-dire c'est que des plans culottes à fond les ballons où elle est vraiment enfin voilà, on voit que son cul tout le temps, et là vraiment tu sens que c'est plus qu'un objet sexuel. Sa relation avec Batman, je n'ai rien vu de plus cringe. Enfin, c'est dans mon top des trucs cringe. Ouais, regarde, il a des frissons.
Le frisson dans le dos.
Juste la petite scène où Batman, ils sont censés, elle est censée l'aider parce qu'il a mal quelque part.
Ouais.
Et lui, il garde sa combinaison au-dessus parce que Ben Affleck avait pris du poids.
Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Vraiment, enfin, il y a rien qui va. Il y a rien qui va.
Ça me fera toujours marrer où il est tout serré dans sa combinaison.
Oh
comme
là
ça.
Là.
Avec
voilà,
les joues toutes rouges en plus.
C'est Fire. Y a rien à sauver. Enfin, si, j'aime bien Ezra Miller. Enfin, tu vois, en plus, individuellement, les gens, je les aime bien.
Ah oui.
Tous individuellement,
ouais,
quasiment.
Mais c'est là qu'on va voir tu vois, autant, là, par exemple, on a dit qu'on a aimé Wonder Woman, on va se prendre quelques répliques, genre, Wonder Woman, c'est de la merde et tout. Mais par contre, le prochain film, on pourra dire ce qu'on veut.
Personne viendra
là, tout le monde, personne n'en aura rien à foutre. Tu vois, y aura pas une histoire de Snyder, de machin, de bidule. Là, ça va être vraiment, tout le monde va être allez-y les gars, faites-vous plaisir, défoncez ce film si vous avez envie.
C'est internet, personne te dira faites-vous plaisir, tu te feras quand même.
Il y aura toujours un ou deux.
Tu vas toujours trigger des gens. Ouais. Mais oui, du coup, Justice League, c'est ni fait ni à faire. Et ouais, le dernier tiers craquera là où tout est rouge.
Ah oui,
oh, une seule famille à sauver.
Ouais, ils sauvent qu'une famille. Enfin, c'est.
Moi, ma scène préférée. C'est quand Cyborg il récupère Aquaman et que Aquaman il le regarde et il fait My man.
My man, c'est vrai. J'ai des potes qui l'ont fait très longtemps le
et
My
y,
man.
Il y a aussi une scène où Cyborg il fait Bouya. Ouais. J'étais là, putain, ça a été écrit dans les années 90.
C'est dans Kim Possible qu'ils disent tout le temps Bouya.
Mais oui, voilà, enfin début 2000, fin 90 quoi.
Mais ouais, non, il y a rien à sauver là-dedans. Voilà, c'était My Two Cents, vous pourrez faire 2 heures sur Justice League tranquillement.
Ouais, on va peut-être même faire
plus. Le film est court. Hein.
C'est ah oui, l'avantage. C'est vrai. Moi, je vais vous surprendre parce que je vais dire du bien de Justice League. Donc, j'ai décidé d'être le gros connard. Jusqu'au bout.
Bah non, mais après, t'as le droit d'aimer des moments en te rendant compte que c'est pas bien. Hein.
En fait, je trouve qu'il se regarde.
Ah ouais.
En fait, il est fascinant parce que c'est.
Oui, mais guilty pleasure quoi. C'est.
Non, mais il y a un côté super fascinant avec ce film. Je l'ai déjà regardé genre 4 fois depuis qu'il est sorti.
Ah ouais. Moi, je l'ai pas revu depuis.
Alors que j'ai pas revu Batman v Superman, ouais. J'ai pas revu les autres, tu vois. Mais celui-là, je le trouve parce que d'un seul coup, t'as le côté Snyder et tout, et t'es là genre, putain, qu'est-ce qui se passe? Et 2 secondes après, t'as Whedon qui fait des blagues à la Buffy.
Ouais.
Et t'es là genre, non, mais
ouais,
ensuite,
non, mais c'est
là,
ça,
tu n'as plus de moustache.
Sur
le lasso, ouais. Oh, putain.
C'est que des répliques. Où... Et moi, je connais bien les deux réalisateurs au point de pouvoir savoir, ça, c'est Whedon.
Ouais, bah,
ça,
ouais.
C'est Snyder. Ça, c'est façon. Whedon.
Ouais,
comme
ouais,
là, je suis à peu près sûr, ça se trouve, je me gourre, mais toute la scène d'intro après la mort de Superman, là où tu vois justement le clochard dans la rue et tous ces trucs-là, avec la musique super triste, ça fait Snyder, ça. Enfin, pour moi, c'est Snyder, c'est obligé. Ça m'étonnerait même pas que ce sera encore dans sa version à lui, tu vois.
Ou alors, ça sera un autre mot affiché sur le sur la pancarte.
Ou une autre chanson. Une autre chanson. Peut-être que cette fois, il va mettre du Leonard Cohen.
Il y a des chances. Hein.
Mais ouais, enfin, tout est compliqué. Et vraiment, ouais, le début avec Superman, bec de lièvre sur Snapchat, là, j'en ai encore des frissons, quoi. Mais tout le monde. Enfin, je veux dire, si. Mais merci pour les mèmes que ça apporte depuis sortie du film. Enfin, voilà, les captures d'écran de Henry Cavill sans sa moustache, c'est la plus belle chose qui aurait pu. Enfin,
tout ce qui s'est passé dans ce film est fascinant, quoi. De la moustache d'Henry Cavill jusqu'au changement de réalisateur.
Ah ouais,
enfin, il y a que des trucs pas possibles.
Il y a rien qui te dit.
Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le voir.
Ce film, il a un côté fascinant.
Ah oui, non, mais c'est plus tu le vois en tant que bête, quoi. Mais c'est sorti en état.
Et il y a un autre truc que j'aime bien dans ce film. C'est que c'est le seul film du DCU où il y a le vrai Superman par moment. Il arrive et il sourit et il sonne les gens et tu vois, il est là, salut, c'est moi Superman, et j'étais là, je fais, enfin, ça m'a mis une claque dans la gueule parce que c'était tellement étrange d'un seul coup dans un film de Snyder qui est le vrai Superman, ça clash total avec le Superman qu'on nous a montré avant. Mais en même temps, on t'explique qu'il est mort, donc peut-être il a changé depuis qu'il est revenu, tu vois.
Il a eu le temps de réfléchir. T'as
géchant.
Bref, j'en garde pour la semaine prochaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de Justice League, de Zack Snyder et Joss Whedon. Vesper, on peut te retrouver où? Tu fais toujours Twitch en ce moment?
Oui, je l'ai pas fait ce week-end, il faudrait, mais oui, c'est facile. C'est facile de me retrouver sur Twitter. En tant que base de tout, là où je parle de tout, et donc du coup à partir de là, le Twitch, Instagram, le TikTok, tout ce que tu veux quoi.
Le TikTok?
Eh ouais.
Tu te prends pour une.
Mais le TikTok c'est pour faire plus des vidéos de cosplay ou des trucs comme ça. Ça parlera pas ciné, mais.
Et tu fais genre tu te tournes sur ta vie, t'es en Wonder Woman et
Ça je l'ai pas fait.
Ah, il faut le faire.
Ça me fait penser que t'avais fait une vidéo sur Wonder Woman avec mon nombril en cosplay justement qui était sympa. S'il y en a qui veulent aller la voir pour.
C'était
sur la mythologie.
Oh là là, cette promo, merci. Oui, on avait fait une vidéo avec Manon, bah justement à la sortie du film, on avait fait, il y en avait une sur ma chaîne en fait qui parle justement de tous les liens entre Wonder Woman et la mythologie, donc tout ce qui est puisé dans la mythologie grecque pour l'univers de Wonder Woman. Et effectivement, Manon sur sa chaîne, donc qui s'appelle Manon Bril, et sa chaîne c'est une autre histoire. Elle a un format où en fait elle revient sur l'histoire de chaque dieu grec. Et donc du coup elle raconte un peu justement leurs différentes représentations, et donc sur sa chaîne c'est toutes les représentations d'Arès en fait, justement on en parle on en parle pour Wonder Woman. Donc ouais, c'est les deux vidéos qui se complètent, si ça vous intéresse. Et je porte le costume de Wonder Woman de mon ami Lou, donc voilà.
Et vous pouvez nous retrouver tous les deux, Vesper et moi, dans le dernier épisode de Bondsplaining, qui est sorti il y a peu.
C'est vrai.
Allez l'écouter.
Où on parle donc, on décide enfin, après 4 ans d'existence dans le podcast, à répondre à la question qui est le meilleur James Bond. Donc même si vous n'êtes pas des énormes fans de James Bond, je pense que c'est toujours sympa d'avoir des avis comme ça.
On dit que George Lazenby est un con.
Voilà. Voilà. Vesper a pris, a décidé que à chaque podcast qu'elle faisait, elle allait traiter quelqu'un de con. Pour l'instant, c'est pas nous, on a de la chance. Un de ces quatre, elle va arriver. Ouais. Sofiane, t'es qu'un con. Michel, t'es qu'un con.
Oh non, Michel. Il dort à côté, là. Ah non, il dort plus.
Le pauvre, il a peur, maintenant.
Ça y est, il est perturbé. Mais ouais, et en plus, du coup, j'ai fait un erratum sur Twitter, sur cette histoire de Georges Lazenby qui mange de l'ail.
Oui, c'est Roger Moore qui a menti dans son bouquin.
Ouais,
quoi. Voilà.
C'est ça.
Donc, pour le coup, c'est pas de ta faute
oui,
du tout.
Oui, voilà. Mais quand même, ma source, c'était le bouquin de Roger Moore. Et après, on a eu cette discussion avec Laurent Perriot qui m'a dit mais non c'est pas vrai, je dis mais je l'ai lu dans le livre et puis du coup voilà j'ai posté la capture
non,
d'écran
non,
du
si
bouquin.
Laurent Perriot te dit qu'un truc c'est pas vrai c'est... tu crois
bah ouais, grave mais du coup c'était je me suis sentie doublement trahie quand ouais. Je me suis dit Roger m'a menti quoi.
Et moi de mon côté je suis toujours en train de on a bientôt fini Lynch Planning là on a fait presque tous les films de David Lynch. On a fait Mulholland Drive dans le dernier. C'était un gros morceau. On a fait un bon épisode de 3 heures sur le sujet. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il y a Mulholland Drive. Et là, on va faire Inland Empire, le dernier film de David Lynch. Donc si ça vous intéresse, on a fait tout Twin Peaks. On a fait tous les films de Lynch. Voilà, on a tout donné. Et un peu comme ce podcast où on a tout donné. On a 83 films là. Ouais. Voilà, tout simplement. Bah la semaine prochaine, tout le monde.
Salut.
Salut.
Salut.